Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à ce sixième Cinélab. C'est donc le sixième depuis 2013, je crois. On fait des Cinélabs sur ces questions d'exploitation, des rapports au public, des rapports à la com, des rapports. On a fait déjà pas mal de Cinélabs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu. L'idée, c'est un petit peu de rassembler tout ce qu'on a produit un petit peu dans ces différents axes de réflexion. Et peut-être d'essayer d'aller vers le projet de salle de cinéma un petit peu idéal, mais on y reviendra tout à l'heure. Comment va se passer la journée? On va faire d'abord on aura un temps avec Benoît Labourdette, que vous allez découvrir tout au long de la journée. Et puis ensuite, on travaillera par petits groupes. Donc là, ça va être des petits groupes. trois petits groupes sur trois thématiques un petit peu différentes qui touchent à la salle de cinéma. Et puis ensuite on aura une mise en commun, puis on reviendra là-dessus, mais voilà un peu. Et à midi, vers 13h, un petit buffet qui vous est offert et proposé. Voilà, rien de plus. Est-ce qu'on se présente rapidement les uns les autres, mais très rapidement? Nous, on aura l'occasion après dans la journée de
Juste avant, je te coupe je le place maintenant, mais on aura temps d'en reparler pour ceux qui sont dans l'exploitation. Vraiment, juste c'était histoire de rappeler que l'appel à candidature à projet, je le place, hein, à projet médiation du cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du CNC, et diffusé, que du coup, vous avez jusqu'au 22 septembre pour répondre. J'en ai déjà parlé avec certains et certaines d'entre vous, mais voilà, certains que je ne connais pas encore. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à me solliciter dans la journée, parce que tout ça fait cohérence avec la journée d'aujourd'hui et tous les cinélabs qu'on a mis en place depuis le début. C'est qu'il y a vraiment une réflexion transversale sur la salle de cinéma et une mise en application qui peut être permis aussi grâce à l'appel et grâce à l'aide de la région du CNC. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion d'en reparler.
C'est quelqu'un qui arrive. Ouais, on fait un petit tour les uns les autres. Benoît se présente, puis après, toi, tu lanceras ton intervention. Mais que ça, on sait tous à peu près aussi, en un mot, une structure et puis un nom, mais qu'on sache d'où on parle, quoi. Peut-être on commence par là-bas, tiens.
Allez, on commence par là-bas. Bah, Damien, de la maison d'image, et quand même. Voilà,
je fais retour. Ouais, c'est bien, c'est ça.
Noémie, pareil. Élodie, filmérant, donc intervenante éducation à l'image, du côté d'Aubenas, en Ardèche.
Bérangère, ciné-étoile à Cluse.
Jean Hidem.
Arnaud, cinéma avec plaisir de voir.
Catherine, Agrira.
Alexandre, des ateliers de la rétine.
Benjamin, des ateliers de la rétine.
Mélanie, donc sur le site d'exploitation usine Albert.
Marc, en recherche sur la ville bastoncienne.
Et donc Rémi, je travaille à l'avant-scène en relation avec les autres.
Donc, et tout le monde te connaît?
Alors justement, ouais, on va peut-être. presque. Du coup, moi, donc, je suis Isabelle Paré, je coordonne le réseau Médiation Cinéma à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, du coup, j'accompagne les salles de cinéma sur les projets de médiation, voilà. Et puis Amaury
Piotin,
qui est là, spécialement par là. Coordinateur passeur d'image, j'écris.
Voilà. Et donc, moi, c'est Benoît Labourdette, et je suis cinéaste. Et Amaury, on t'a présenté, mais.
Ah, bah ouais. Très bien. Toujours de l'écrira, passeur d'image.
Je suis cinéaste, mais je m'occupe aussi beaucoup de médiation. J'ai fondé le festival Pocket Film en 2005, les films avec téléphone portable, avec le Forum des images à Paris, au moment où la caméra est apparue dans les téléphones portables. En 2011, j'ai fondé aussi, à la demande du CNC, une opération qui s'appelait Le jour le plus court, qui s'appelle maintenant La fête du court-métrage. Il y a 2 ans, avec l'ACAP, le pôle image de Picardie, on a publié un petit livre qui s'appelle Éducation à l'image 2.0, que vous connaissez peut-être, certains le connaissent pas.
Oui. On a un exemplaire ici.
Voilà, j'en ai un autre, et vous pouvez le télécharger gratuitement sur internet. Il y a le PDF, ils en ont tiré un certain nombre, mais il est téléchargeable aussi. C'est un guide qui propose des actions avec les nouvelles technologies, des ateliers en fait, avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Je travaille pas mal avec Passeurs d'Images Île-de-France, mais ça va s'étendre un petit peu sur la France, sur un projet qu'on a appelé Éducation aux images 2.1. Donc là, c'était 2.0 et c'était à l'époque Éducation à l'image, et maintenant on le nomme Éducation aux images. C'est quelque chose, on a appelé ça une recherche-action, c'est faire un petit peu ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchir à des actions, mais là, sur une première période d'un an et demi, réfléchir collectivement, tester des choses sur les terrains, sur les territoires, pas seulement des ateliers, mais aussi des modes de partenariat, travailler un petit peu plus, enfin on le fait tous le plus possible, mais c'est vrai que travailler plus dans la transversalité entre des structures, et puis avec l'idée en 2019 de publier, toujours avec la CAP, Éducation aux images 2.1, qui rassemble un petit peu des idées et qui partage des idées. Voilà, donc c'est explicitement, c'était pas le cas là, on était vraiment sur des actions d'atelier qui sont décrites sous forme de guide, et là c'est vraiment l'idée de d'une perspective un peu plus large sur les actions, sur les territoires, entre les acteurs du territoire. Alors, juste pour représenter, pour reformuler la journée à ma façon, je me permets, je vais vous proposer un petit temps d'une bonne heure pour débuter la journée, où je voudrais simplement vous transmettre un petit peu ce que sont pour moi, et pas seulement pour moi, parce que c'est partagé, les enjeux contemporains des images. C'est-à-dire que le cinéma, on sait ce que c'est, mais en fait, je ne sais pas si on sait encore vraiment ce que c'est. Hein. Il suffit de voir Netflix, par exemple, c'est quoi ? C'est du cinéma ou pas, ces choses-là ? Et si vous voulez, ça c'est des choses conceptuelles et théoriques, mais surtout ça touche les pratiques des spectateurs. Et les spectateurs, c'est bien les gens à qui on s'adresse. Et moi, je crois que c'est hyper important, les salles de cinéma. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, le fait que des gens viennent dans des salles pour partager des choses. Mais pourquoi et comment, en fait, hein, et du coup, je voudrais faire un petit état des lieux des enjeux contemporains, des pratiques contemporaines, parce que c'est vrai que les pratiques et notamment des jeunes évoluent beaucoup, hein, y a beaucoup de choses qui changent, et à partir de ça je vous proposerai qu'ensuite on échange sur ces sujets, parce que je peut-être, d'ailleurs si vous voulez me couper vous pouvez me couper quand vous voulez, hein, y a pas de problème, mais il y a des positionnements, peut-être on ne sera pas d'accord sur certaines choses, et je pense que c'est bien de ne pas être d'accord, d'une part, les uns avec les autres, c'est productif, le conflit, c'est un beau mot, je trouve. Et puis après ça, après avoir échangé là-dessus, du coup on va se répartir en trois petits groupes, donc on sera les animateurs, chacun de nous trois, des trois groupes, donc les groupes sont déjà faits. Sur trois thématiques en fait, sur lesquelles on va travailler en fait et produire quelque chose en fin de matinée, en toute fin de matinée et puis en début d'après-midi, produire des idées, de la production intellectuelle ou matérielle ou artistique. Enfin voilà, on travaillera chacun dans notre groupe pour finalement que cette réflexion engagée ce matin deviennent des actes aussi et des propositions aux autres. Ça, je pense que, enfin, pour moi, et c'est comme ça que j'envisage, je veux dire, on est tous acteurs dans ce champ, chacun à notre endroit, et le plus important, et du coup c'est bien qu'on le fasse et qu'on le mette en pratique, c'est de s'écouter les uns les autres, se nourrir les uns les autres, et puis que les idées fusent, etc. Là ce matin c'est un peu moi qui vais parler, d'accord, mais ça pourrait être vous, enfin voilà, ce qui est important c'est le partage. Et du coup, à 16h, on fera une présentation. Chacun présentera ce qu'il aura fait. Sur trois thématiques, on donne, tu l'avais dit rapidement, mais du coup, lieu, image et public. C'est les trois thématiques, lieu, image et public. Toi, tu t'occupes du lieu.
Ouais.
Moi, je m'occupe des images et toi, des publics. Ouais. Voilà. Et du coup, qui est inscrit dans chacun de, par exemple, le lieu qui est
non,
à...
Je sais pas.
Ah, vous savez pas. Ah, c'est secret.
C'est,
ah oui,
c'est
d'accord.
Surprise.
Ah, d'accord.
Surprise.
Ok, pardon.
C'est le petit point.
Surprise du chef. D'accord, ok.
On peut encore changer d'avis. Enfin,
d'accord.
Suivant les comportements.
Et votre choix, il a été...
Arbitraire, dégueulasse. Ouais.
Quel est punitif?
Punitif, c'est avec Amaury. Hein. J'ai apporté un certain nombre d'objets aussi parce que et je vais éteindre la lumière dans quelques instants pour vous montrer des films un petit peu particuliers dont je vais vous raconter la genèse dans un dispositif un peu particulier, vous allez voir. Je pense que si vous voulez le cinéma, c'est une technologie au départ, hein, on le sait tous, inventée en 1895 plus ou moins par les frères Lumière, parce qu'en fait, on sait que c'était une invention aussi collective, hein, qui a été inventée préalablement, en fait, aux États-Unis, mais enfin, on dit que ça a été inventé par les Français, mais enfin, ça, c'est parce qu'on est Français, et on, voilà. Mais n'empêche que ce qui est évident, c'est que c'est une technologie dont les inventeurs n'avaient vraiment pas perçu l'usage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas... compris ce à quoi ça allait être utilisé dans l'avenir. Hein. On connaît tous l'histoire des projections au sous-sol du café à côté de la gare Saint-Lazare où Georges Méliès était venu et puis il veut acheter la caméra parce que lui il voit le potentiel narratif et d'effets spéciaux. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que dès le tout départ, en fait, la question de la magie et de l'effet spécial était très présente dans le cinéma. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les films à effets spéciaux qui plaisent aux gens, il y avait ce plaisir-là, comme ça, de la magie qui était quand même présente dès le départ. Et ils refusent parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient lui vendre leur caméra pour que lui fasse payer des entrées lui-même, alors que eux faisaient payer les entrées. Enfin, et du coup, on peut les comprendre dans la logique. J'ai inventé une machine bizarre, je fais payer l'entrée. Pourquoi je la donnerais à quelqu'un d'autre qui va se faire du fric lui aussi et qui va me faire de la concurrence? On peut comprendre le raisonnement. Et du coup, vous connaissez l'histoire, hein, c'est un des premiers piratages. C'est-à-dire que le piratage, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de l'énergie qui renouvelle les choses, hein, se réapproprier les choses, en fait. C'est vrai que c'est un mot qui a mauvaise presse dans le champ de l'audiovisuel, mais... dans le champ de l'informatique, ce qu'on appelle le hacking, par exemple, qui veut dire la même chose, c'est justement se réapproprier des choses. Et du coup, avec sa caméra pirate fabriquée en Angleterre, il a commencé à faire ses films. Du coup, tout ça pour dire que c'est une technologie qui est apparue à l'époque, qu'on s'est appropriée. Et des nouvelles technologies qui font des images... Il y en a plein, en fait. Il y en a plein qui apparaissent tout le temps. Et du coup, on ne sait pas forcément ce à quoi elles vont être faites. Par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réalité virtuelle. Vous savez, les films qu'on regarde dans ces casques. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé.
Oui. Je peux raconter un truc.
Bah, bien sûr.
Je suis très perturbée par ça, justement.
Bien sûr.
J'étais à Venise, là, et du coup, il y avait un gros truc de réalité virtuelle. Et donc, je suis allée voir ce que ça donnait. Et je suis tombée sur un film très court de 12 minutes qui était contextualisé. Où, en fait, on était en Corée dans les années 40-45, à l'époque où il y avait beaucoup de militaires américains et où il y a eu beaucoup de meurtres, de prostituées. Enfin, voilà, un truc assez atroce. Et en fait, là, on était clairement dans la peau du militaire américain. Et on se retrouvait dans les rues en Corée. Et c'était assez horrible. Voilà. Enfin, j'étais toute seule, là, en train d'entendre les talons d'une prostituée derrière moi. Puis d'un coup, je me retrouve dans une rue toute sombre, avec elle devant moi. Et ensuite, je me retrouve dans une chambre super glauque où je suis toute seule et où il n'y a personne. Et où il y a une couverture et ensuite du sang qui arrive vers mes pieds. Enfin voilà, un truc complètement horrible.
C'est bizarre.
Ouais, ouais, c'est très bizarre. Et puis il y a un miroir à côté de moi. Et puis dès que je regarde le miroir, pouf, je vois le corps de la prostituée derrière moi. Enfin voilà, et là ça s'arrête. Et donc quand j'enlève mon truc, je me dis waouh, pas de distance. En fait, c'est moi là, c'est moi devant cette femme morte. Et en même temps, je me suis dit mais quelle puissance. Et ça a été un vrai choc pour moi. Alors, pas tout le monde l'a compris de la même manière, mais alors moi j'ai été complètement mais traumatisée par cette expérience, parce qu'en fait je me suis dit mais ouais, il y a plus de distance. Et en même temps, c'est la façon de faire passer des choses, parce que là pour le coup c'est voilà, c'était un sujet. Et du coup j'ai revu ce truc là autrement, et je me suis dit que ça pourrait bon, pas pour des sujets aussi sensibles et aussi trash, parce que là c'était vraiment très très dur, mais n'empêche que j'ai pas enlevé mon masque, et que j'ai regardé partout autour de moi, et qu'elle était là en train de morte quoi. Et du coup c'était perturbant, mais la qualité était pas encore là, je trouve. Enfin, je parle pas de qualité en fait d'image ou quoi, mais au niveau de la sensation et de l'absence de distance, et de nous mettre dans la peau d'un meurtrier, quoi, contextualisé, parce que c'est quelque chose qui existait, c'est un fait historique, donc en plus, voilà, ça a été, bah, c'était perturbant. Voilà.
J'ai vécu aussi une expérience, et du coup, assez différente de la tienne, et je trouve que pour l'instant, effectivement, enfin, personnellement, j'ai rien ressenti, parce que la technologie, elle n'était pas au point pour moi. Ça ne me projette pas, et le mot réalité me convient pas du tout, quoi.
Moi aussi, hein.
Parce que en fait, c'était dans un musée, enfin dans un château, et c'était l'assassinat du duc de Guise qui était présenté, mais enfin c'était fait par des étudiants, c'était tellement mal fait, le cinéma d'animation il fait tellement des plus belles choses que moi ça m'a pas fait vibrer. Et après c'était d'autres choses beaucoup plus anecdotiques, comme être sur l'arête de l'aiguille du Midi, ou avec le vide qui descend sur Chamonix, ou être en plongée et tout. Mais pareil, moi, ça me permet pas de me projeter comme je me projette dans une salle de cinéma. Enfin, pour l'instant, pour moi, ça reste ovni. Après, je me dis qu'il faut s'y intéresser, mais pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on peut en faire, nous, dans notre rapport à la salle. Et, pour l'instant, je suis assez en retrait avec ça.
Ouais.
J'ai jamais essayé, je suis très tenté d'ailleurs. Je vais essayer. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça questionne un truc de cinéma de base, c'est le point de vue. Mmh, c'est-à-dire, on est dans la peau de qui ?
C'est ça.
Être dans la peau du militaire américain, très bien, mais on aurait pu être dans la peau de la prostituée.
Tout à fait, ouais.
Coréenne. Mmh. Et là, je trouve qu'il y a un enjeu qui est...
Parce qu'on ne peut pas changer.
Assez intéressant.
Ah non, tu ne peux pas. Hein.
Ah.
Ah non, non. La prostituée, tu la vois, et tu es là.
Tu es coincé
dans la salle.
Tu
ne
peux pas t'échapper.
Tu es coincé.
Mais c'est le choix du réalisateur, et je pense que c'est pour te...
Et c'est virtuel, en même temps, c'est bien réel.
C'est réel. T'es dans les vraies rues de Corée, enfin, c'est tout est...
Je ne sais pas dans quelle mesure on peut créer nos propres films avec des jeunes, etc., avec plusieurs lunettes. Mais dans le cas d'une poursuite, par exemple, soit on est poursuivi, soit on est poursuivant. Et les lunettes peuvent très bien jouer de ça. Mmh. Ça, c'est...
Ouais,
ça m'intéresse.
Alors, il y avait un reportage, il n'y a pas très longtemps, de France Inter. C'est une émission qui s'appelle Interclasse, qui relate des expériences menées sur Midera, plutôt en classe. Et je suis tombée dessus un peu par hasard. Il relatait une expérience de jeune qui avait justement été dans un jeu, un groupe d'étudiants plutôt, fin lycée, en réalité virtuelle, avec alors ça se passait clairement sur un fond de guerre en Orient, je sais plus si c'était en Irak, mais voilà, derrière ce qui posait comme question, c'est la nécessité de se mettre dans la peau pour ressentir, la nécessité d'être dans l'immersion pour face à une banalité de la violence des images, pour être encore dans l'émotion, quoi, en gros. Et enfin, derrière il y avait cette question là Voilà. Après, c'est un dispositif qui a été créé par un gars qui est journaliste au départ. Donc, on est confronté effectivement à la question du point de vue, mais aussi à la question de réel, virtuel. Qu'est-ce que le journaliste, son point de vue, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre en se mettant dans une situation où, qui est quand même, on pourrait dire, presque contradictoire.
Je pense que cette contradiction, elle est, à mon avis, assez criante. C'est-à-dire que le terme même, réalité virtuelle, c'est un oxymore. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'opposé, et c'est vraiment ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que c'est la réalité. Alors que justement, quand on est dans une salle de cinéma, il y a une représentation. Oui. C'est-à-dire qu'on est face à l'image, on est libre, on peut en sortir, et on est face justement à un point de vue extérieur, et du coup on choisit de l'adopter ou d'avoir une posture critique. Et c'est vrai que ce projet-là, il veut nous faire sortir en fait de la posture critique, nous faire croire que c'est le réel. Et c'est vrai que c'est très troublant. C'est troublant à la fois dans les projets, c'est-à-dire que je pense que, et notamment, en effet, c'est pas mal utilisé par les journalistes, mais je pense qu'il y a quand même une question d'éthique et de déontologie par rapport à la question du point de vue. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose, justement, entre éducation à l'image, aux images, et éducation aux médias. On sait jamais trop, et c'est vrai que dans éducation aux médias, c'est plutôt éducation au journalisme, généralement. Et c'est vrai que de la part des bonjour, de la part des journalistes, souvent la question du point de vue est peu questionnée. En fait, hein, c'est ça dépend hein, des journalistes, mais moi, pour en avoir été confronté à beaucoup de journalistes, je vois bien que ils cherchent à une forme d'objectivité, mais il n'y a pas d'objectivité. Hein, il n'y a que des subjectivités. Et du coup. Il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'usage encore. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui existe, mais les gens ne regardent pas encore des films en réalité virtuelle. Donc il y a des projets industriels très forts parce que les industriels pensent que ça va fonctionner. En fait, on ne sait pas. Moi, j'imagine que sans doute ça va fonctionner, mais ce qui fonctionnera sans doute plus, c'est la réalité augmentée. Vous savez, Pokémon Go, des choses qui se rajoutent comme ça au réel. Moi, je crois plus à ça qu'à la réalité virtuelle où on est tout seul dans son casque. Parce que.
Oui. Pour les jeux. C'est à Paris, c'est le MK2, je crois,
qui
commercialise. Apparemment, ça ne dure pas très longtemps et c'est relativement cher et quand même, c'est un engouement. Enfin, j'ai entendu. Enfin, ça.
Oui.
Ça intéresse.
Oui, mais ça reste excessivement minoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a ce mouvement-là que ça va prendre et que ça va balayer tout. On ne sait pas ça. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du Centre national du cinéma, sur les aides aux nouveaux médias l'année dernière, les trois quarts des projets aidés en nouveaux médias étaient des projets de réalité virtuelle. Donc il y a une poussée de l'industrie, mais ça va peut-être. On ne sait pas. Enfin, là-dessus, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a aussi une question très importante et qui touche à la salle, c'est la question du collectif.
Ah oui, là, c'est...
On est seul.
Mais on est en...
Dans l'expérience collective.
Bah oui, c'est-à-dire que quand on est dans son casque, on est tout seul. Mmh. Et du coup, il y a... Ça, c'est la réception. En fait, vous savez, ces casques-là, alors il y a plein de modèles, vous avez sans doute entendu parler de l'Oculus Rift, qui coûte très cher et tout. Et ces modèles-là, en fait, on met son téléphone dedans, en fait. Hein. Et si vous voulez, le truc, c'est qu'on met son téléphone, et comme les téléphones, pas tous, mais un certain nombre de téléphones sont dotés de capteurs de position et de mouvement, et du coup, quand on bouge la tête, le téléphone calcule, en fait, sait quel mouvement on fait, et nous décale, en fait, l'image. L'image, c'est une sphère, et du coup, nous montre la partie de sphère qui est devant nos yeux. C'est à ça que servent ces casques. Donc, ça coûte... 10 euros, hein, un casque comme ça, ou 15 euros, parce qu'on met son téléphone dedans. Et après, il y a la caméra. Alors non, je ne suis pas asthmatique. Ce n'est pas un tube de Ventoline. C'est une caméra de réalité virtuelle. C'est une caméra à 360 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un objectif fisheye ici et un objectif fisheye ici. Vous savez, c'est 360 degrés, en fait. Chacun fait un peu plus, fait 210 degrés. En fait, du coup, il y a un petit recouvrement. Et du coup, si je pose la caméra au milieu de vous, du coup, et qu'on filme, on pourra le faire dans mon groupe tout à l'heure, on pourra faire des petits tests. Ensuite, finalement, il y a une boule. Donc, en effet, quel est le point de vue? Il ne peut pas y avoir de projecteur quelque part pour éclairer la scène, par exemple, parce que ça filme absolument tout. Du coup, c'est assez intéressant d'essayer ça, de tourner avec ça. Et du coup, j'avais pour projet de vous montrer quelque chose, tourner en réalité virtuelle, d'une manière collective. Et en fait, je vais vous montrer autre chose, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous montre autre chose. J'ai proposé, c'était en mois d'avril ou mai, je ne sais plus, À la FEMIS, j'organise souvent des ateliers sur les nouvelles technologies à la FEMIS, qui est donc une école de cinéma. Et on a fait une semaine sur la réalité virtuelle, justement. Et moi, je me préoccupais beaucoup du collectif, c'est-à-dire comment on fait pour faire du collectif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit film, on a posé la caméra, et puis il y avait, sept personnages, un qui était au-dessus, un qui était d'un côté, de l'autre côté, de l'autre côté, et chaque personnage parlait, disait ce qu'il pensait de la réalité virtuelle pendant, 20 secondes, puis ensuite un autre parlait, etc. On peut regarder ce film dans le casque et regarder tout autour de soi, mais quand on a fait la restitution, c'est important les restitutions, montrer les choses, il y avait 150 personnes dans la salle, on ne pouvait pas avoir 150 casques, même si on le voulait, on n'aurait pas pu l'avoir. Et puis techniquement, c'est super compliqué. Et du coup, je me suis dit, on va prendre un vidéoprojecteur, et qui est là d'ailleurs. C'est normal. Hein,
c'est normal que ça continue la vidéo.
Ouais.
Tu veux que je la laisse?
Non, c'est bon. Je vais venir dans quelques instants. Donc je.
Merci.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vidéoprojecteur. On a posé le téléphone à côté du vidéoprojecteur ou la tablette, et en fait on a éteint les lumières dans la salle et on a projeté le film dans la salle en bougeant le vidéoprojecteur comme on tournerait la tête. Du coup c'était collectif, donc on regarde l'image en haut, ensuite sur le côté, en face, etc. Du coup finalement on était dans une expérience collective de réalité virtuelle, donc c'était assez ludique. Et je m'étais dit que je vous montrerais ce film ce matin. Et c'est une expérience sympa, mais le film, il n'est pas... c'est chacun qui... Contextualiser, c'est intéressant, mais décontextualiser, c'est pas hyper passionnant, quoi, comme film. Et du coup... je me suis questionné beaucoup sur tout ça, et je vais vous montrer des films, des petits films dans cette salle avec ce même dispositif, mais des films qui me semblent avoir plus d'intérêt. Moi, en tant que programmateur là, d'une petite séance de 3 minutes que je vais vous faire, j'ai envie de vous montrer des choses qui me plaisent, quoi, que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est autre chose, là je vous ai raconté l'expérience, c'était bien dans le contexte, mais si je vous dis ça, c'est que je pense que quelles que soient les technologies, tout ça, faut faire gaffe, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est quand même, comme vous disiez, par rapport à la réalité virtuelle, c'est qu'est-ce qu'on offre aux gens.
La mise en scène, le point de vue.
C'est ça. La création, je veux dire. Donc, et du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer des petits films d'animation qui ont été faits dans le cadre d'ateliers au mois de juillet, dans les bases de loisirs d'Île-de-France. Passeur d'images Île-de-France a été sommé par la région d'organiser des ateliers dans les bases de loisirs. Il y avait des projections en plein air le soir, et l'après-midi il devait y avoir des ateliers, et du coup c'est le concept de l'atelier est le suivant. Ce sont les gens passent, si vous voulez, et ce sont des films d'animation en papier découpé. Les gens s'asseyent, découpent des papiers, il y a plein de revues, de choses comme ça sur des tables, et puis ensuite ils tournent leur film en plan séquence avec manipulation à vue. Donc vous allez voir, c'est un atelier qui peut durer qu'un quart d'heure. Je peux découper trois trucs et puis faire un petit film, ou il y en a qui restaient trois heures parce qu'ils voulaient absolument préciser leur film. Les films que vous allez voir, ils sont muets parce que du coup il y a du brouhaha, etc. Donc on a décidé de faire des films muets. Évidemment, il pouvait y avoir plusieurs prises. Il y avait quelques personnes pour accompagner, dont moi, et du coup des gens qui sont cinéastes. Et dans les moments d'attente, où peut-être il n'y a pas grand monde qui vient, des choses comme ça, je proposais aux gens qui animaient l'atelier avec moi, eux-mêmes, de faire des films. C'est-à-dire que l'idée de cet atelier, c'est pas tant moi je suis un professionnel et je t'encadre, mais moi je suis dans la créativité et viens et fais-en aussi et on partage. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée du partage. Alors voilà, je vais vous montrer quelques petits films.
J'ai apporté mon vidéoprojecteur.
Ah oui, il y avait YouTube qui était en train de rouler en effet. Avec des enfants qui criaient d'ailleurs. Alors le premier film que vous allez voir, c'est en train de s'allumer. Hein. Le premier film que vous allez voir, c'est un film collectif que j'avais proposé de... Enfin, c'est un peu les animateurs, les gens du personnel de la base de loisirs, enfin plusieurs personnes à qui j'ai proposé de faire un film collectivement tous ensemble. Alors... Vous pouvez lever la tête. Ah. Donc en fait, chacun avait préparé des choses et puis chacun contribue. Pour un film comme ça, on pourrait faire de la musique en direct aussi. Alors là, c'est un film fait par une petite fille. Le mariage. Il y a vraiment une très grande autonomie. Hein. On donne le cadre et ensuite ils font ce qu'ils veulent, quoi. Présentation très académique. Celui-là, c'est un petit garçon. Il a dû passer 3 ou 4 heures à tout préparer, ses éléments, à coller, à découper. Et sa mère était là, et du coup, elle attendait. Elle a attendu des heures, en fait, son fils qui avait son truc très précisément dans la tête.
voyez, il y a un générique de fin à chaque fois avec les logos institutionnels, ce qui fait que plan séquence, dès qu'il est sorti, on peut le diffuser. Ça, c'est un film d'un petit garçon, je crois. On avait récupéré des images, si vous voulez. C'est vrai que le découpage, c'est vraiment assez riche, parce qu'on découvre des images et en fait on n'est pas du tout devant la page blanche ou de scénario, c'est les images qui sont inspirantes. On avait apporté, enfin c'est la coordinatrice de la région Île-de-France qui avait apporté des jouets en plastique de ses enfants. Et c'est vrai que du coup les sujets, les idées naissent en se confrontant à la réalité des images. Si je vous montre ces films, c'est parce que, comme vous voyez, c'est, y a pas vraiment de scénario, c'est juste un jeu, mais qui produit quand même quelque chose. Et la maman dont je vous parlais, elle s'est beaucoup ennuyée, et au bout d'une heure et demie, elle a fait un film, et voilà son film, qui s'intitule quand même « À quoi sert l'éducation à l'image ?» Un élément du film de son fils. Voilà. Hop.
Voilà, on peut faire des projections aussi comme ça. Pourquoi pas, ça change la posture. Moi, j'utilise depuis quelques années aussi pas mal le picoprojecteur. Vous voyez ce que c'est, ça, c'est les vidéoprojecteurs portables. On fera des tests, du coup, cet après-midi avec. L'intérêt du picoprojecteur, c'est qu'on met les films dedans et il est sur batterie. Donc, voilà, il n'y a pas besoin, là, de se brancher sur le courant. Mais la différence, c'est que ça donne des contraintes. C'est qu'en termes de puissance, ça fait 100 lumens, alors que lui, il fait 3000 lumens. Du coup, on ne peut pas projeter en aussi grand. Ça pose des contraintes, mais on peut faire plein de choses. Moi, j'ai fait très régulièrement des projections itinérantes dans des quartiers, sous forme d'ateliers avec les habitants, etc., voilà, avec les picoprojecteurs. Et évidemment, en articulation avec la salle, c'est-à-dire que c'est la salle qui organise la chose, le parcours, il part de la salle, on se balade dans la ville, on projette dans les rues, et à la fin, on revient dans la salle et on voit le dernier film dans la salle. Enfin, c'est pas du tout... en opposition à la salle, bien au contraire, parce que aussi ce qui est assez marrant dans ce type de projection, c'est que comme le dispositif est est singulier, on peut aussi montrer des films singuliers. C'est-à-dire que dans la rue, sur des murs, vous pouvez montrer un film expérimental d'une minute trente, super bizarroïde, qui aurait peut-être été vécu comme ennuyeux, entre guillemets, dans la salle, et qui, tout d'un coup, dans un dispositif comme ça, va paraître très, très surprenant. Voilà, donc ça permet aussi de montrer, d'autres choses. Voilà pour la petite projection. Je voudrais du coup vous transmettre un petit peu ces petits éléments de... Je vois qu'il est 11h déjà. Ces petits éléments que sur les fonctions de l'image aujourd'hui, les enjeux des images aujourd'hui. Alors, attendez, j'arrive. Je vois plein d'outils, plein de choses que j'ai apportées. Ça me donne envie de vous en parler. Allez, il y a un truc. Parce que, en fait, si vous voulez... j'ai pas apporté de drone... Mais je fais beaucoup de choses avec les drones aussi. C'est très intéressant, les drones. C'est super angoissant, enfin, aussi. Alors, il y a quelque chose que j'ai acheté récemment et je ne sais pas encore quoi en faire comme atelier, mais j'ai très envie de faire quelque chose avec ça. Du coup, je partage avec vous. C'est donc un appareil photo. Alors, je vais vous prendre en photo, si j'y arrive, parce que... Ça paraît simple, mais en fait, je sais pas pourquoi, parfois, il sait pas... Non, mais j'essaie de vous prendre en photo. Ah ouais, ok.
C'est très bizarre.
Bon, ok. Et alors, c'est super connu et c'est super classique. En fait, c'est un Polaroid. Et du coup, il y a l'image qui va sortir. Et alors, ce qui est assez... Alors, elles sont petites, elles sont plus petites qu'avant. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas à attendre 10 minutes qu'elles se développent. Vous allez voir, elles sortent tout de suite. Je vais vous la faire passer. Et en plus, c'est un autocollant, en fait, l'image. Donc, voilà, elle est en train de sortir. Ce qui est assez sympa, donc j'ai rien fait encore avec, mais du coup, je vous partage mes réflexions. C'est que ça reste un appareil photo numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre plein de photos avec, on n'est pas obligé d'imprimer celles qu'on a prises, parce que ça coûte, en fait, ça coûte 23 euros les 30, donc ça coûte, mais vu qu'on peut faire plein de photos et imprimer que celles qu'on a choisies, on a même des petits trucs de retouche dedans. Y a une carte mémoire, donc on peut aussi récupérer les images dans son ordinateur. Je vous la fais passer. Celle-ci est moyenne, mais pour des gros plans, ça marche bien. Ouais, on peut aussi connecter à son téléphone et imprimer des photos faites avec le téléphone avec ça. C'est vrai que l'intérêt de ça, c'est que l'image, elle existe matériellement. Et c'est quand même toute cette question des images qui vont vite, de la surconsommation d'images. J'ai l'impression... en tout cas j'ai bien envie d'inventer quelque chose avec.
C'est trop bien. Il y a une autre piste que je viens de découvrir.
Ouais.
Je suis assez pola aussi et gif, et il y a maintenant un pola qui arrive à sortir des gifs.
Ah, des gifs animés.
Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est mon petit truc.
Ah, c'est hyper intéressant, ça.
Mais j'ai pas le temps de creuser, je suis désolée, parce que j'ai vu l'info il n'y a pas longtemps.
C'est Polaroid de marque Polaroid ou...
Ouais. Qui fait des gifs.
Fait des gifs animés.
Ouais. Je viens de voir ça sur mon site YouFunk où il y a tout.
Intéressant.
Et voilà, c'est parce que
voilà.
C'est joli, ça. À creuser, je vous tiens.
Ouais. Il y a la question de la diffusion des films. Mmh. Et ça, je pense que... Il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que il faut, quand on fait des propositions aux gens, notamment des propositions d'ateliers de pratique artistique, il faut que les gens puissent s'approprier les images. Et du coup, cet atelier-là dont je vous ai montré des films, les films, on les mettait en ligne juste... le soir même de la réalisation,
Et en fait, on avait fabriqué des autocollants. Voilà, les gens ils repartaient avec leur autocollant. Et en fait, avec son téléphone, on flash ça et on arrivait sur la liste de tous les films faits pendant la journée, le soir même. Et ça, moi, j'essaie de le systématiser dans les ateliers. Même pendant un atelier qui dure une semaine, chaque soir, les rushs, des choses qui ont été faites, sont en ligne sur une adresse simple. Ça, c'est des questions techniques, parce que mettre des films en ligne, ça ne veut pas forcément dire les mettre sur YouTube ou sur Vimeo. On peut les mettre sur ses propres serveurs. Bon, c'est des questions techniques. Et moi, j'en ai vu la vertu dans les ateliers, parce que du coup, bah, les gens s'approprient, montrent autour d'eux, recueillent d'autres avis, etc. Et le projet est mûri. Et aussi, les images, elles appartiennent vraiment aux gens. C'est-à-dire que, si vous voulez, souvent, et je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, parce que je suis allé à... Je le connaissais, mais je suis allé au festival Vitrollywood à Vitrolles, fin août. Et du coup, c'est des films faits dans le cadre d'ateliers avec des jeunes. Mais les jeunes, en gros, comme souvent dans les films d'atelier, sont acteurs du film. Ils ont plus ou moins écrit le scénario, mais par exemple, ils ne participent absolument pas au montage du film. Et du coup, ils ne savent même pas quel film ils ont fait. Vous voyez, donc c'est sympathique parce qu'ils viennent voir leur film, mais il n'est absolument pas question d'éducation à l'image là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le montage, bah, ça change le sens. Enfin, je crois que là-dessus, faut savoir quels sont ses objectifs. C'est-à-dire que si l'objectif il est éducatif, l'éducation aux images, bah, il me semble que le montage doit faire partie de l'atelier. Sinon, à mon avis, on passe à côté de notre objectif, à mon sens. Et du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, dans le cadre des ateliers, j'apprécie pas mal le plan séquence qui apporte son lot de contraintes, bien sûr, mais qui a la vertu, enfin qui a pour moi deux vertus, c'est que d'une part, on fait tout en même temps. Du coup, on fait du montage dans la façon de faire bouger la caméra, le rythme d'enchaînement des éléments, etc. C'est bien du montage, c'est bien un travail sur le rythme, sur la confrontation des choses les unes avec les autres. Sauf que ce montage, il est fait dans une forme de chorégraphie pendant le tournage, d'une certaine manière. Mais c'est bien des enjeux du montage qui sont là. Donc on travaille pleinement le montage, en fait, quand on fait un plan séquence. Sauf qu'au lieu de le travailler a posteriori avec un outil qui n'est pas du tout collectif, l'ordinateur, si j'ai un groupe de 10 personnes, comment je peux faire du montage avec un ordinateur? C'est carrément pas possible, en fait. Du coup, moi, en prenant justement les objectifs, je me dis, bah, quel moyen je mets en face de ces objectifs? Et du coup, je trouve que le plan séquence est utile pour ça. Et puis, par ailleurs, en termes de dynamique de groupe, quand on fait un plan séquence, il faut absolument être tous ensemble. Sinon, le film, il peut même pas exister. Et du coup, voilà. Et puis, du coup, les gens peuvent aussi travailler pas mal en autonomie. Voilà, bref. C'était... En tout cas, pour indiquer que il me semble que la question de la diffusion, elle est très importante. Et par exemple, justement, sur cette, c'était pas sur cette île de loisirs-là, mais sur l'île de loisirs de Port-aux-Cerises, bah, comme moi, j'avais pris garde au fait que les films pouvaient être exportés, disponibles le soir même, bah, ils étaient aussi disponibles pour les gens qui s'occupaient de la projection en plein air. Et du coup, les films tournés pendant la journée, ils ont été projetés le soir même, avant le long métrage, dans la projection en plein air, ce qui était quand même super pour les films, pour les gens, etc. Et je crois que ça, justement, je parlais tout à l'heure des outils techniques. Ben, aujourd'hui, on a Internet, on a des outils d'encodage légers, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, peut-être pour ceux que ça intéresse avec le petit groupe cet après-midi, mais on peut très facilement diffuser les choses et faire que les choses soient réappropriées. Du coup, pourquoi ne pas l'utiliser? Enfin, moi, ça me semble un outil merveilleux, en fait, Internet. Après, il y a bien sûr la question du droit à l'image. Mais quand on fait des films d'animation comme ça, on n'a pas de problème de droit à l'image. Hein. On peut les diffuser comme on veut. Donc là aussi, moi, je prends en compte ce type de contrainte. C'est-à-dire que il me semble que la diffusion, elle est au cœur quand même de nos actions. Alors,
Voilà, ce que je voulais vous, enfin, ce dont je voulais vous parler, en gros, c'est faire un peu une petite histoire récente des technologies et des usages, et vous proposer un peu mon point de vue, et puis ensuite on en discutera. Excusez-moi, je reprends mes notes dans tous les sens. Il y a un truc que j'avais noté. Oui, là. Alors, tant que j'y suis, je vais peut-être être un tout petit peu dans la polémique, mais allons-y. Je parle d'Internet, de mise à disposition. Tout à l'heure, j'ai parlé de piratage. Parlons du téléchargement illégal, s'il vous plaît, si vous en êtes d'accord. Qui parmi vous n'a jamais vu, parce que peut-être certains n'ont jamais téléchargé eux-mêmes, mais qui n'a jamais regardé un film qui aurait été préalablement téléchargé de façon tout à fait illégale. Voilà. Idem pour la musique. Vous connaissez Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, hein, vous connaissez son histoire, vous savez que c'était le premier pirate avec un grand P, c'est-à-dire il a volé une grande partie de notre patrimoine cinématographique. Ce sont des films volés aux producteurs et aux distributeurs qui avaient pour intention de les détruire, parce que c'est comme dans l'édition, enfin je veux dire en termes économiques, ça n'avait pas de sens de conserver ces films, et du coup, leur logique étant purement économique, il a dû se mettre hors la loi, en effet, pour faire ça, souvent avec l'accord des cinéastes, hein, d'ailleurs. Mais pour ceux qui connaissent un peu son histoire, sa vie n'a pas été facile du tout de ce fait-là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Dans la dernière lettre du CNC, je lisais encore la lutte contre le piratage. Et je me rappelle, c'était une lettre du CNC il y a 3-4 ans, où il y avait eu, on parle beaucoup du piratage, hein, comme d'une grande maladie. Et du coup, c'était drôle parce qu'il y avait une page, il y avait écrit c'est terrible le piratage, on a mesuré, ça fait un manque à gagner de je ne sais combien, c'est horrible et tout ça, que faire ? Et puis la page suivante, c'était. C'était il y a plus d'années, ça devait être l'année 2012, c'était un record de fréquentation. 2012, génial, record de fréquentation, etc., d'une page à l'autre. Donc, où est la logique, hein, derrière tout ça ? Il n'y en a pas, en fait, hein, de logique. Mais je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans les détails, parce que je crois que là-dessus, bien sûr, il y a des partisans d'un côté, des partisans de l'autre côté. Il y a des gens qui disent... Mais quand même, voler un film, c'est comme voler une baguette de pain. Vous ne volez pas une baguette de pain. Pourquoi vous voleriez un film ? Hein ?
Quand on a faim.
Quand on a faim, oui, c'est vrai. Ça fait penser à Orson Welles. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si ça existe en vidéo, mais il était venu en 1982 à la Cinémathèque française pour faire une conférence. Et je ne sais pas s'il y a la vidéo ou juste le son... des étudiants lui disent « Monsieur Wells, nous on veut faire du cinéma, mais on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment faire, quels conseils vous pouvez nous donner ?» Puis il répond avec sa voix, et puis il était imposant, Orson Welles, il dit mais si vous avez envie de faire un film, volez une caméra. Enfin, rien ne vous empêche de faire un film si c'est une nécessité pour vous. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de voler de caméra. Des caméras, on en a dans la poche partout, du coup on peut faire des films. Pour revenir à la question du piratage, c'est quand même des questions économiques. Et évidemment, on est dans un secteur économique. On a la chance d'avoir le Centre national du cinéma avec la vigueur qu'on sait du cinéma français, avec aussi les effets pervers, etc. Mais cette organisation quand même rigoureuse d'un secteur économique... rigoureuse parce que vous savez sans doute le projet du CNC, c'était un projet que les professionnels avaient avant la Seconde Guerre mondiale. Il a été conçu en fait sous le régime de Vichy et il a ouvert en 1946, donc il a été conçu par des gens très organisés, n'empêche que c'est grâce à cette organisation là on a un secteur qui fonctionne plus ou moins. Mais en tout cas, plus que dans d'autres pays, ça c'est indéniable. Du coup, évidemment, moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait une organisation économique d'un secteur. Ça, c'est évident. Mais en tant que cinéaste, j'ai envie que mes films soient vus par des gens. Et ça, je pense que a priori, un cinéaste, sauf si c'est juste un commerçant, mais si c'est un artiste qui a envie de s'exprimer face aux autres, il est content, de même que un écrivain, par exemple, il est a priori content que ses livres soient disponibles dans des bibliothèques et que les gens puissent accéder gratuitement à ses livres. Je ne pense pas qu'il y ait des écrivains qui se plaignent de ça. Et de même que les films sont disponibles dans des médiathèques, il y a une organisation économique de la chose, hein, vous savez aussi bien que moi, hein, les droits, les médiathèques et les bibliothèques achètent plus cher, hein, parce qu'il y a les droits afférents au support d'ailleurs. C'est d'ailleurs un petit peu bizarre, c'est-à-dire que quand le DVD il est abîmé, il faut le racheter, mais s'il n'est pas abîmé, on peut le garder plus longtemps. Enfin, il n'y a pas forcément une très grande cohérence économique, mais enfin, en tout cas, il y a une forme d'économie. Donc, bien sûr, je suis pour cette économie, mais parlons clairement du téléchargement illégal, comment ça se passe et comment ça se passe économiquement, pour voir les choses un peu objectivement, enfin, objectivement dans mon point de vue. Vous savez peut-être ce qui s'est passé en 1985. Rappelez-vous, à l'époque, dans les années 80, enfin à la fin des années 70, il y a deux technologies qui sont apparues, le magnétophone à cassette et le magnétoscope à cassette. Vous vous rappelez? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on enregistrait, on copiait des disques sur des cassettes audio. Il y a même l'invention du Walkman. Pour pouvoir, et on ne pouvait pas mettre des vinyles, hein, dans le Walkman. Il fallait mettre des cassettes. Et on ne vendait pas beaucoup de cassettes. Donc, il fallait bien copier les vinyles sur des cassettes. Et puis, les magnétoscopes, on enregistrait les films qui passaient à la télé. Ce qui était rigoureusement illégal. Interdit par la loi, c'est de la contrefaçon. Puni par 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros, 2 millions de francs à l'époque d'amende. C'était illégal d'enregistrer la télévision. Et pourtant, on le faisait, et je ne sais pas vous, mais moi, le dimanche après-midi, avec deux magnétoscopes, on copiait les cassettes. Donc, en fait, si vous voulez, on enregistrait la radio et on se recopiait, on se prêtait les disques. Enfin, c'était la même chose, en fait, sauf que c'était peut-être moins rapide. Enfin, c'était assez massif, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on allait à Monoprix, il y avait des rayons entiers de cassettes vierges, toutes les marques, toutes les qualités, etc., etc. Et toutes ces cassettes vierges, franchement, c'était pas pour s'enregistrer, chanter sous la douche. Hein. C'était clairement, on savait très bien pourquoi c'était fait. C'était pour faire de la contrefaçon massive.
Mais d'ailleurs, il y a même des magazines de jaquettes.
Oui,
bien sûr. Ouais. En fonction des. Oui,
il y avait que des jaquettes dedans.
Ouais. Ah, oui. Des films qui passaient à la télé, il y avait les jaquettes
en mode sur
ça. Ah ouais. Téléjaquettes, ouais, faisait ça, télécassettes.
Ouais. Ah,
les jaquettes.
Il y avait une taxe là-dessus.
Absolument.
Il y avait une taxe sur les cassettes.
Mais en fait, à la base, elle n'existait pas, cette taxe. Et elle a été mise en place. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1985, il y a eu deux choses, en fait. D'une part, une modification du droit d'auteur. Ils ont créé l'exception pour copie privée, c'est-à-dire ces actes de copie sont devenus légaux. On a le droit, encore aujourd'hui, d'enregistrer la télé, d'enregistrer la radio. On a le droit de prêter un disque à son copain. Il a le droit de le copier sur son ordinateur. C'est autorisé par la loi. Et ils ont ajouté la taxe pour copie privée, sur les supports vierges. Et encore aujourd'hui, sur chaque support vierge, en fait, vous achetez un DVD, il y a quasiment 1 euro du prix qui est reversé à la Sorecop. Et moi, je suis personnellement aux deux sociétés d'auteurs, la SCAM et la SACD, qui sont les deux sociétés d'auteurs pour l'audiovisuel, et autres, mais enfin, l'audiovisuel, il est là. Et en fait, si vous voulez, il y a une mesure des audiences, des trucs que j'ai fait qui passent à la télé, plus ou moins intéressants, parce que j'ai pas une haute opinion de la télé, donc même ce que j'ai fait qui y passe, peu importe. Mais enfin, j'aime pas trop, mais enfin, en tout cas, si vous voulez, il y a une mesure. C'est pas vraiment une mesure, une évaluation des audiences. Et en fait, il y a donc une manne financière globale. Et tous les 6 mois, ils regardent combien il y a eu d'audience pour chaque œuvre, si vous voulez, en fonction de la chaîne, de l'heure, etc. Et chaque auteur touche ce qu'on appelle la copie privée. Donc on touche de l'argent, en fait, qui est une quote-part de cette taxe sur les supports vierges. Donc en fait, l'État, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque ? Il a pris en compte une technologie, les magnétophones et magnétoscopes, qui a produit un usage, la copie, le partage, etc. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas empêcher cet usage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait leur boulot, c'est-à-dire de mettre du collectif, de l'économie, de créer un impôt pour que ça fonctionne économiquement. Et du coup, ça, c'est le travail d'un État, en fait. C'est ça, son boulot, c'est de faire que la société fonctionne avec les évolutions des choses. Et si vous voulez, compte tenu de ça, il y a bien des années, il y a une bonne dizaine d'années de ça, le PS, quand ça existait encore, a conçu un projet de loi qui s'appelait la loi dite de la licence globale. Vous avez peut-être entendu parler de ce truc. Voilà. Donc pour préciser les choses, en gros, c'était mettre un impôt sur les abonnements Internet, c'est-à-dire qu'au lieu de payer notre abonnement 30 euros, on l'aurait payé 40. Ce qui est électoralement parlant pas super vendeur, mais ils avaient quand même ce projet de loi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce projet de loi, il était dans les promesses de campagne de François Hollande à l'époque, en 2012. Et c'est une des promesses qui n'a jamais été tenue, mais c'est pas la seule. Mais en tout cas, c'était une promesse de campagne de dire on va prélever une taxe sur les abonnements Internet. Ensuite, on va mesurer. Et là, on peut être vraiment précis combien il y a de téléchargements de chaque chose. Et ensuite, on va reverser aux auteurs directement. Et si cette loi était passée, eh bien, on pourrait télécharger tout ce qu'on veut et on saurait qu'il y aurait une rémunération pour les auteurs. Qu'est-ce qui se passe avec Deezer, avec Netflix ? C'est la même chose. Je paye mon abonnement et je regarde ce que je veux. Du coup, ça correspond en fait à un usage, à une pratique. En fait, aujourd'hui, on préfère être abonné et payer un forfait et regarder tout ce qu'on veut. Voilà, c'est comme l'abonnement à la médiathèque ou à la bibliothèque. Je paye à l'année et puis je prends tout ce que je veux. Voilà, c'est pas un paiement à l'acte. Peut-être ça changera, mais en tout cas, c'est les usages d'aujourd'hui. Donc, si cette loi était passée, le piratage n'existerait même pas. Il y aurait un modèle économique derrière le téléchargement. En lieu et place de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a la loi Hadopi, on connaît bien, qui a été mise en place sous le gouvernement précédent de Sarkozy. Vous imaginez bien que cette loi Hadopi, elle a été écrite par des lobbies, comme à peu près toutes les lois qui concernent l'économie, et que du coup, ces lobbies, c'est les majors en fait, qui exercent en France. Et les majors, c'est quoi ? C'est les sociétés de production et distribution d'audiovisuel et de musique, qui sont connues pour... et je peux vous en donner fait l'expérience un certain nombre de fois, qui sont connus pour faire en sorte de verser le moins possible de droits d'auteur aux auteurs. C'est leur principe d'augmenter ce qu'on appelle les frais d'édition pour ne jamais être redevable à part de la somme initiale aux auteurs. Donc c'est très rare, à part pour les grands succès en tant qu'auteur, de recevoir des droits d'auteur de la part des sociétés. Et c'est pour cette raison-là qu'en France, on a des sociétés collectives qui ont été créées par les auteurs, des sociétés d'auteurs, qui du coup prélève à la source, c'est-à-dire que quand votre film passe à la télé, ça ne passe plus par les producteurs et les distributeurs, c'est directement les chaînes de télévision qui abondent les sociétés d'auteurs et qui rémunèrent les auteurs. De même pour la taxe sur la copie privée, c'est les sociétés d'auteurs, ça ne passe absolument pas par les producteurs et les distributeurs. Et du coup, cette loi Hadopi postule que le piratage c'est mal, pose des problèmes économiques, etc., punit les gens, enfin vous les punir, mais en fait, c'était anticonstitutionnel de pouvoir punir les gens parce que la punition doit venir d'un juge et ne peut pas venir d'une autorité administrative. Donc, c'était un projet, de toute façon, qui n'était pas très constitutionnel à la base. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la police de caractère qu'ils avaient utilisée, ils l'avaient piratée. Enfin, bref. Voilà. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit, parce que si on lit la loi Hadopi, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de punir justement les contrevenants, mais à aucun moment ça parle de rémunération des auteurs. C'est ça qui est extrêmement hypocrite, c'est-à-dire qu'en fait c'est soi-disant pour protéger le droit d'auteur, mais en fait c'est juste pour protéger les intérêts de quelques personnes qui ont une moyenne d'âge de 65 ans, pardon pour ceux qui voilà, mais qui en ont strictement rien à faire des nouveaux usages, qui veulent juste pas perdre leur modèle économique qui a marché pendant des années, ils veulent encore le conserver, Du coup, ils ont le bras suffisamment long pour imposer une loi. Et le PS, malgré son projet, n'a pas pu changer ça, alors qu'ils en avaient quand même l'intention. Qu'est-ce que ça produit économiquement? Ça produit un truc quand même assez puissant, c'est que quand on télécharge illégalement, du coup, et c'est pas de notre faute, c'est, encore une fois, c'est la faute de l'État, si on est, qui n'a pas fait son travail, si on est dans l'illégalité quand on télécharge. Mais qu'est-ce qui se passe quand on télécharge sur des sites, notamment de direct download? Parce que, je vous le dis, si vous prenez les logiciels de peer-to-peer, vous allez recevoir une lettre de Adopi. Alors que si vous allez sur des sites de direct download, Adopi n'est pas autorisé à surveiller ça. Donc vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez sans jamais recevoir de lettre d'Adopi si vous ne faites pas de peer-to-peer. Bon, là, c'est un peu technique. Je pourrais vous en dire plus après. Et après, si vous protégez votre connexion par un VPN, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et personne ne saura jamais ce que vous faites derrière votre connexion. C'est ce que font les gens en Chine, par exemple, etc. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand on va télécharger, on est exposé à un certain nombre de publicités. On peut se marier avec moult femmes russes, voilà, bon. Et puis, on peut aussi payer des abonnements à des sites de download. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément d'argent qui circule autour du téléchargement. Mais cet argent, au lieu d'aller aux auteurs, il va à des mafias polonaises, néo-zélandaises et autres. Et du coup, si vous voulez, ce qui est extrêmement inconséquent dans ces choix politiques qui ont été faits et économiques, c'est que en réalité, l'argent qui circule ne va pas aux auteurs. C'est ça que ça produit. Du coup, si vous voulez, moi je crois, c'est pour ça que moi je suis absolument pour le téléchargement, parce que ça correspond aux usages des gens aujourd'hui. Et quand on s'abonne à Netflix et qu'on paye 10 euros par mois, on peut aussi télécharger les films, si on veut les regarder où on veut, etc. Donc je suis pour, et simplement, on a une loi qui n'est pas adaptée. Mais du coup, voilà, je crois qu'il faut être un peu clair politiquement là-dessus, si vous voulez. C'est pas parce qu'il y a une loi qui est comme telle aujourd'hui qu'on est forcément d'accord et que cette loi, elle est correcte. Hein, voilà, je veux dire, on sait comment justement les sociétés évoluent. Et ben, c'est par la société civile que les choses changent. Hein, c'est pas forcément... voilà.
Et puis pourquoi vous parlez que le téléchargement et pas de streaming? Parce que le téléchargement illégal, mais streaming illégal aussi. Pour certains contenus.
En fait, à vrai dire, c'est, si vous voulez, techniquement, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, quand le streaming, en réalité, c'est un téléchargement temporaire. C'est-à-dire que la télévision, elle émet un flux. On se connecte au flux, mais il y a pas, on peut choisir de l'enregistrer. Mais il n'y a pas d'enregistrement. Alors que le streaming, on le sait, quand on regarde un film sur YouTube, la petite barre grise, en fait, le fichier est téléchargé de façon temporaire dans mon ordinateur. Donc, techniquement, oui, c'est pas le même acte. Mais si vous voulez, quand on va, par exemple, si vous voulez, quand vous allez sur YouTube, si vous avez envie, vous pouvez conserver les fichiers vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous prenez ce qu'on appelle un... Voilà, c'est-à-dire que vous prenez un plugin qui s'appelle... comment il s'appelle déjà
Downloader, des choses comme ça.
Oui, Download Helper. C'est gratuit. Voilà, vous rajoutez ça sur votre Firefox. Et du coup, quand vous allez sur YouTube ensuite... Je voulais vous montrer un petit film. Je vais vous montrer un petit film. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je voulais vous montrer ce petit film là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, je l'adore et ça fait, il date. Et si vous voulez, on a ici. Attendez, ici. Je peux le télécharger en fait. C'est-à-dire que je le prends. Disons, je prends celui-là par exemple. Hop. Et voilà. Il est en train d'être téléchargé et maintenant je l'ai sur mon ordinateur. Parce que en réalité, ce film, il était téléchargé de façon temporaire et ce petit plugin me permet d'accéder aux fichiers temporaires qui normalement sont. Donc techniquement, en fait, c'est la même chose. Mais c'est vrai, oui, que dans l'acte.
Voilà, moi je parlais pas de technique, je parlais d'usage en fait. Donc de la personne qui va J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas plutôt pour les jeunes, ils regardent énormément de choses en streaming.
Ouais.
Le principe du téléchargement, c'est plus un côté un peu cinéphile, de se dire je vais le garder quelque part, dans ma vidéothèque, comme ça je l'ai, je le verrai plus tard, etc. Aujourd'hui, on est dans une accessibilité, un besoin d'accéder très rapidement à quelque chose, et c'est pas forcément, en tout cas pour les jeunes, et pas forcément de se dire je vais prévoir pendant 3 semaines voir ce film-là. Donc c'est pour ça que le mot téléchargement me gêne un peu,
oui,
dans le sens où
je suis d'accord.
Techniquement effectivement c'est réel, mais la logique aujourd'hui c'est surtout un besoin d'accès en fait.
Absolument.
Je trouve.
Absolument, et c'est vrai que c'est tout aussi illégal dans le principe, mais au niveau de la loi Hadopi, qui est quand même la loi qui s'impose à nous aujourd'hui, en fait on peut être puni si on a téléchargé, mais on ne peut pas être puni si on a regardé en streaming. Et du coup, c'est assez marrant, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, si on prend une musique, vous allez télécharger un MP3 et peut-être vous recevez la lettre d'Adopi, mais si par contre vous écoutez ce même MP3 en streaming et que vous le téléchargez grâce à un plugin comme je viens de vous montrer, là, Adopi ne peut rien vous dire. En fait, vous n'êtes pas hors la loi par rapport à la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Alors que pourtant, vous avez récupéré le même fichier MP3, mais ce n'est pas passé par la même voie. Et en effet, c'est rentré dans les usages. Et, voilà. Mais du coup, ça questionne quand même. Ça questionne nos pratiques et ça questionne la salle. Parce que ça veut dire qu'on accède au contenu, comme on dit, comme on veut sur Internet. Du coup, qu'est-ce qu'on propose en salle finalement ? Quelle est la différence, voilà. Alors, je vais juste vous montrer ce film qui dure 56 secondes. Qui le connaît déjà, peut-être ? Ah bon, donc il y en a qui ne le connaissent pas. Alors, il est assez intéressant.
Je suis impressionné par le nombre de vues, quand même.
Oui.
853 millions.
Et ouais.
C'est la bande est souvent.
Voilà, moi je le montre souvent et du coup, c'est moi sans doute. Alors il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que tout à l'heure je l'ai cherché et vous voyez, il apparaît comme court-métrage de 2007, une minute, date de sortie initiale, réalisateur, distribution, c'est les acteurs qui sont dedans, le nom des acteurs. C'est vraiment intéressant et significatif, c'est nouveau ça, il est vraiment considéré comme un court-métrage. Ouais. Et pourquoi n'est-il pas à l'agence du court-métrage ? Je me demande vraiment. C'est parti. Pardon. Alors j'ai bien sûr une publicité, covoiturage en Isère, je pense que ça, on est assez bien ciblé. Hein. Allez, c'est reparti.
Ouch! Ouch! Ouch, Johnny! Ouch! Johnny, that really hurt! Johnny bit me. And that really hurt, Johnny, and it's still hurting.
Voilà, donc Charlie m'a mordu et ça fait vraiment mal. C'est... Attendez, hop, la publicité. Alors, je rallume la lumière.
Et ça fait 853 millions.
Alors, en effet, ce film, il a 10 ans. Il a fêté son 10e anniversaire cette année parce qu'il a été mis en ligne donc en 2007. Vous connaissez, alors juste YouTube, vous savez depuis quand ça existe ?
2002.
Autre proposition.
2003.
2003. 2001. L'Odyssée de l'espace. Eh bien, en fait, YouTube s'est apparu en 2005. Ça a 12 ans.
Voilà, et si vous voulez, ce qui est en 2005, il y a deux choses qui se sont passées. Il y a eu l'apparition de la caméra dans les téléphones portables, c'est arrivé en 2005, et aussi l'apparition de YouTube, donc site de vidéos communautaires. Et c'était assez nouveau dans le sens où eux-mêmes ne mettent en ligne aucune vidéo, c'est les gens qui mettent en ligne leurs vidéos. Donc ça va m'amener à dire deux, trois trucs autour de ça. Donc ce film, j'appelle ça un film, c'est un film amateur en fait, hein, tout simplement. À la base, si vous voulez, entre les amateurs et les professionnels, il y a une hiérarchie. Les amateurs, ils sont nuls, quoi, en gros, et puis les professionnels, ils sont bons, enfin, techniquement parlant, si vous voulez. Et c'est vrai que ce problème hiérarchique existe toujours, et même dans nos propositions. Je veux dire, on va défendre une œuvre quand même professionnelle, etc., etc., mettre cette différence. En fait, dans les années 80, enfin, depuis les années 80, il y a un sémiologue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Roger Audin, qui a travaillé sur ce qu'il a appelé le cinéma privé et qui a dit non mais attendez, arrêtez, il faut arrêter de mettre une hiérarchie entre les deux. C'est des films qui servent simplement pas à la même chose. C'est-à-dire que le film professionnel, il sert à distraire, à informer, à faire de la propagande, enfin ce qu'on veut, voilà. Et le film amateur, en fait, ben si je filme mes enfants, mes parents, si j'ai des photos, parce qu'il y a le film mais il y a aussi les photos, finalement c'est très important dans sa vie. C'est-à-dire que avoir des photos de soi, de ses ancêtres, les gens sur les photos de mariage, etc., c'est hyper important dans la constitution de son identité, en fait. Du coup, ce sont des films qui ont une utilité, mais identitaire, en fait, pour se définir, pour se construire. Ils participent de la construction personnelle. Du coup, c'est pas... que je veux dire, si j'ai filmé les premiers pas de mon petit garçon, que le plan soit net ou flou, qu'il soit fait professionnellement ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est que j'ai filmé les premiers pas du petit garçon, que j'ai conservé ça, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que il y avait, à l'époque où le cinéma amateur n'était pas encore sonore, il y avait des pères de famille qui filmaient, par exemple, des concerts entiers de leur enfant, mais sans son. Et puis après, et c'est pas grave, ce qui était important, c'était d'être là pour donner de l'importance à ce qui se passe. De même, à partir des années 90 et des caméscopes, moment où les mères de famille se sont aussi appropriées la caméra, alors qu'avant c'était surtout les pères de famille, il y a eu pas mal de films très longs en vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était très long. Il y a eu beaucoup de films qu'on n'a jamais regardé, mais c'était pas important. Ce qui était important, c'est d'être là pour le filmer. Du coup, ça donne de l'importance à l'événement. Ça fait que on met en scène sa propre vie aussi, parce qu'on est en train d'en produire des images. Du coup, voilà, il a dit qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Par contre, il y a une différence économique de taille. C'est que le film professionnel, il est dans une logique économique. C'est-à-dire que je paye ma place pour le cinéma, j'achète mon DVD, je paye ma redevance, et même quand je télécharge, l'argent malheureusement il ne va pas au bon endroit, mais il y a quand même de l'argent qui circule, etc. Alors que dans la production amateur, il n'y a pas d'argent qui circule. Je ne vais pas payer une place de cinéma pour aller voir des films amateurs, c'est ridicule, enfin, c'est pas dans les usages des gens. Par contre, il y a une économie de la vente de matériel. Il y a tous les ans la nouvelle caméra vachement mieux que la précédente. En fait, c'est toujours la même chose, en gros. Enfin, il y a, on nous vend des caméras, on nous vend à l'époque des pellicules, des cassettes vidéo, des cartes mémoire, etc. Ce qui se passe, si vous voulez, ce qui change en 2005, c'est le fait que aussi la grosse différence avant 2005 entre les amateurs et les professionnels, c'est que les professionnels, ils avaient le pouvoir de la diffusion. C'est-à-dire le secteur professionnel pouvait mettre des films dans les écrans des salles de cinéma et mettre des films dans la télévision. Mais pour pouvoir mettre des films dans la télévision et dans les écrans des salles, il fallait un sacré parcours professionnel. Enfin, je veux dire, avoir fait des études, avoir gravi les échelons. Et alors que l'amateur qui a fait son film avant 2005, hein, encore une fois, bah, il a fait son film, il peut le montrer à sa famille.
sais pas si vous vous rappelez des dimanches après-midi. Moi, je me rappelle de dimanches après-midi absolument terribles avec les diapos et les films, etc. Donc, on était obligé de regarder des choses pendant des heures. Mais à part son petit cercle proche, l'amateur, il ne peut pas montrer son film. Il n'a pas le pouvoir de rendre public son film comme l'ont les professionnels. Et ce qui change donc en 2005, c'est que tout à coup, je mets mon film sur YouTube, et c'est le cas de ce film-là, il date de 2007, ce film-là, il va sur YouTube, et tout à coup, le monde entier peut le voir. Et ça, c'est complètement nouveau. Ça fait aussi que, si vous voulez, pour moi, ce qui change radicalement dans nos publics, c'est que les gens à qui on s'adressait étaient des spectateurs d'images, et l'éducation à l'image, c'était un petit peu éclairer les spectateurs d'une certaine manière, alors qu'aujourd'hui les gens, ils sont acteurs de l'image, ils produisent des vidéos, ils les diffusent, ils ont cette responsabilité là avant, en tant qu'amateur, je pouvais pas diffuser largement quelque chose, du coup j'étais pas dans cette responsabilité. On sait à quel point une image ça peut tuer, je veux dire, c'est ou ça peut sauver, on le voit bien avec les vidéos citoyennes, les violences policières et autres, etc. À quel point il y a une puissance énorme en fait de l'image et une responsabilité énorme. Et finalement, les gens qui sont nos publics, quel que soit l'endroit où on se situe, ils sont porteurs de cette responsabilité qu'ils n'avaient pas avant. Et du coup, les actions d'éducation à l'image, de médiation, etc., moi, me semblent d'autant plus importantes aujourd'hui que les gens sont dans des responsabilités nouvelles. Et alors, pour parler un tout petit peu d'économie autour de ce film, si vous voulez, ce film-là, donc, c'est un film viral. Il est ce qu'il est, on en pense ce qu'on veut, mais il est marrant, voilà, c'est un film de famille comme il y en a tant d'autres, si vous voulez. Mais, pour des raisons sociologiques, tout à coup, c'est ce film-là qu'on a partagé et pas un autre, et que des gens se sont envoyés sur Facebook et autres, par mail, tiens, regarde, c'est marrant, etc. Et du coup, tout à coup, ça devient viral. Mais, vous savez, c'est un petit peu pareil avec les films de cinéma. Par exemple, prenons, vous rappelez, du succès énorme de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Essayons d'être objectifs, même si c'est encore de la subjectivité. Enfin, c'est quand même des raisons sociologiques qui ont fait le... C'est pas un chef-d'œuvre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais la sociologie a fait que, tout à coup, ce film a fonctionné, voilà. C'est pareil pour celui-là. Et du coup... Il a été vu en 10 ans, donc 850 millions de fois. Quel est le modèle économique de YouTube? Vous avez vu, il y a une publicité à côté, et puis il y avait une publicité avant, dessus avant, là, et puis parfois il y a des publicités avant, ouais. Parfois après aussi,
et parfois au milieu.
Ah, au milieu?
C'est-à-dire on peut regarder un contenu un peu long, ouais. Et il y a des interruptions
pour
de pub.
Oui,
ah ouais, sur YouTube ouais. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai vu celles qui apparaissent.
Par exemple, un concert.
Ah ouais.
En intégral, ce qu'ils appellent intégral. Mmh. Il peut y avoir des coupures pub.
Ah, j'ai jamais vu ça.
Alors si on est à côté, ouais, de l'ordi, on peut les scratcher au bout de 5 secondes, mais sinon...
Ah, c'est dingue, ouais. Ah ouais.
Puis tu peux parler.
Tout ça fait que, en gros, ils sont très forts en publicité, oui. Parce que, en fait, l'annonceur là, qui annonce pour la fibre ou la DSL, là, SFR... En fait, là, ils n'ont rien payé, SFR. Ça leur a rien coûté d'apparaître là. Par contre, si je clique dessus, paf, leur compte vient d'être débité là. Parce que j'ai cliqué dessus, en fait. Du coup, c'est super efficace, parce que du coup, ça facture ceux qui cliquent, donc ça facture ceux qui ont eu envie d'y aller. Donc c'est vachement plus pertinent. C'est pour ça que les gens aiment bien annoncer sur Internet, parce que vous mettez une affiche dans la rue, c'est le même prix, quel que soit le nombre de personnes qui regardent. Donc, mais c'est quelques centimes, c'est peut-être là ce qui vient. Il y a peut-être 20 centimes qui leur ont été prélevés, c'est pas énorme, mais moi je suis allé quand même sur le site d'SFR. Du coup, en moyenne, parce que c'est une moyenne, parce que ça dépend du nombre de gens qui cliquent, mais en moyenne, avec tous les clics des gens et la vente de l'espace publicitaire, quand une vidéo est vue 1000 fois sur YouTube, elle rapporte à YouTube 10 dollars. En moyenne, hein, c'est ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000. Elle a rapporté combien à YouTube cette vidéo, du coup? Ça, c'est pour les bons en maths. Hein.
Elle rapporte 10 dollars.
10 dollars.
10 dollars.
8 millions de dollars, quoi.
8 millions de dollars.
Ouais.
Alors, ce qui a fait, ce qui a rapporté 8 millions de dollars, c'est la qualité de ce film. Je ne connais pas beaucoup de films professionnels qui rapportent 10 millions de dollars, 8 millions de dollars, même en 10 ans. Du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, ce qu'on perd, ce qu'on voit, c'est que les films amateurs, aujourd'hui, rapportent de l'argent, tout comme les films professionnels, et potentiellement même plus d'argent que bien des films professionnels. Et du coup, ce qui distinguait la dernière frontière, qui distinguait amateurs et professionnels, c'était l'économie. C'est fini. Il n'y a plus de différence entre les deux, économiquement parlant. Sachez que sur YouTube, c'est très rare, hein, des vidéos qui sont vues autant de fois que ça. C'est quand même l'exception qui confirme la règle. La plupart des vidéos, dans le genre, elles sont vues 8 fois par les 8 personnes à qui elles étaient destinées. Et personne d'autre n'ira jamais les voir. Mais, pour des raisons technique, quelque chose qu'on appelle la loi de Moore, je ne sais pas si vous connaissez ça, le fait que ça, tous les 2 ans, ça coûte 2 fois moins cher, les techniques de l'informatique coûtent 2 fois moins cher, bref, le coût d'hébergement d'une vidéo est divisé par 2 tous les 2 ans, en fait. Du coup, ça leur coûte de moins en moins cher d'héberger ces vidéos. Par conséquent, que une vidéo soit vue 1000 fois, ou que 100 vidéos soient vues chacune 10 fois, ça leur rapporte le même revenu publicitaire. Hein. Il y a eu 1000 vues, que ce soit sur une vidéo ou sur 100, il y a toujours les 1000 vues, donc il y a de l'argent qui rentre. Et ça leur coûte quasiment le même prix aujourd'hui d'héberger une vidéo ou 100 vidéos. En fait. Et ça leur coûtera de moins en moins cher d'héberger des vidéos. Du coup, pour vous donner des chiffres, chaque minute qui passe, il y a 500 heures de vidéos supplémentaires qui sont uploadées sur YouTube. Donc il y a 500 heures de plus par minute. Donc à la fin de la journée, c'est énorme. Donc ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a à peu près 5 milliards de vidéos qui sont visionnées chaque jour. Mais c'est des chiffres qui ont plus de 6 mois. Donc à mon avis, c'est plus encore aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce qui fait leur richesse, c'est pas un film, c'est pas le succès d'un film, encore une fois, ça c'est une exception. C'est la masse énorme, c'est la contribution des utilisateurs, c'est le fait que les gens, avec leur téléphone, ils font une petite vidéo, ils la chargent, ils partagent, etc. Tout cet usage amateur chouette, finalement identitaire, en fait, est utilisé dans sa masse pour produire une économie tout à fait florissante. Et vous savez que en 2007-2008, le poids économique du secteur du jeu vidéo est devenu plus important que le poids économique du secteur de l'audiovisuel. Hein, c'est un secteur économique plus gros que l'audiovisuel, le jeu vidéo, depuis une dizaine d'années. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le poids économique, si vous voulez, du partage de vidéos est en train de devenir plus important que le poids économique du secteur professionnel de l'audiovisuel. C'est-à-dire que les professionnels ne sont plus qu'un élément parmi les autres là-dedans. Moi, je l'ai bien vu, j'ai fait beaucoup de formations avec l'INA chez TV5 Monde, par exemple. Bah, tous leurs trucs, leurs infos, etc., ils mettent tout sur YouTube. Ils veulent tirer leur épingle du jeu dans YouTube, comme n'importe qui, en fait. Alors, tout ça, c'est pas du tout pour dévaloriser les pratiques, notamment d'ateliers de pratiques artistiques. Parce que, bien sûr, un film, et c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer ces petits films d'animation, où il y a eu, même si c'est des amateurs, une intention, un travail, etc. Ça n'a rien à voir. C'est chouette de voir ça, mais ça n'a rien à voir. Des films avec, justement, un point de vue, un travail, une réflexion, enfin, je veux dire, en tant que spectateur, on reçoit beaucoup plus. Du coup, c'est pas pour dévaloriser le travail de création, bien au contraire, mais c'est pour positionner, si je vous ai raconté tout ça. Je vous dis encore un dernier truc sur ce sujet-là, c'est pour positionner le fait que nos publics, ils sont agents économiques du système économique, en fait. Par les vidéos qu'ils font au quotidien et leur partage, et ben, en fait, ils contribuent, ils sont exposés à des publicités. Et ça, c'est beaucoup plus grand, plus vaste et plus profond
que juste l'audiovisuel professionnel qui est une partie de cet ensemble. Oui.
D'ailleurs, les jeunes ne s'y trompent pas, parce que quand ils parlent de ce qu'ils aimeraient être, ils disent « j'aimerais être youtubeur plutôt que réalisateur ».
Ouais.
Ah, c'est vrai.
Ça, c'est le nouveau truc, ouais, youtubeur, ouais, ouais. Ben oui, parce que c'est vrai que le youtubeur, il est là, il se filme et tout à coup, il a du succès. Et c'est pareil.
Il gagne des sous aussi.
Ouais.
Il gagne des sous, mais...
Pour certains, pas tous, évidemment.
Voilà.
Mais il y a ce côté aussi économique. Et si
ben ouais, ouais.
On voit ce côté aussi pécunier, à dire ça peut être une carrière.
Bien sûr, complètement, ouais.
Ça participe quand même d'une visibilité du monde qui est assez... Enfin, qui se complexifie énormément. Moi, je trouve que c'est vraiment là où il y a quelque chose qui se pose. Ça, c'est un petit home film vidéo, etc. Mais quand on voit direct la page... On voit qu'il a déjà son logo, Charlie Beat Me, qu'il y a un espèce de pseudo qui est HD, CYT, qui n'est pas quelqu'un. Mm. Donc derrière, il y a une mécanique qui s'est mise en place. Du coup, moi, je me pose la question de savoir si c'est du réel ou si c'est la fiction, par exemple. Dans quel sens, à un moment, on va pas mettre en scène sa propre vie pour créer de l'histoire. Parce que quand on a fait, c'est tellement gros, ça fait 853 millions de vues. Donc je suppose qu'il y a des subsides qui doivent tomber dans les mains du... Et à un moment, il y a cette tentation... Et cette tentation de recommencer. Alors là, c'est déjà again, donc je suppose qu'il y a
une première fois. Gag, ouais.
Donc, est-ce que là, on est face à quelque chose qui est mis en scène, enfin une mise en scène du réel, etc. Et la porosité, alors il y a une porosité économique entre les films amateurs et professionnels qui est maintenant qui est très floue. La porosité entre vie privée et vie publique. Parce que moi, la première question que j'ai envie de demander à ces gens, c'est mais pourquoi vouloir montrer ça à tous? Pourquoi à tous? Moi, j'ai été filmé par mon père avec au caméscope. Il n'a pas été dans un cinéma en bas pour le dire, montrer ça. Enfin, voilà, donc il y a cette porosité-là. Et la réponse, c'est que du coup, il y a un mécanisme économique qui est... On marchandise notre vie privée, quoi.
Voilà.
Absolument.
Et du coup, là,
absolument.
On la met en scène. Et moi, je ne sais pas si là c'est joué, répété.
Ouais.
Il y avait déjà le problème avec les Frères Lumière. Hein. La sortie des usines des Frères Lumière, quand on a vu les déguisements des nanas sortir de leurs usines, on a dit, oh là là, il leur a demandé de s'habiller. Enfin, c'est pas une captation du réel, quoi.
Ouais.
C'est déjà de la fiction. Et ça, c'est cette fiction-là, alors,
déjà la fiction.
Elle est riche,
oui, oui.
Mais c'est aussi un terrain extrêmement glissant, parce que ça participe d'une lisibilité du monde qui devient de plus en plus complexe et qui peut alimenter ce qu'on appelle le fake, dans un cadre moins grave, mais les théories du complot, dans un cadre beaucoup plus grave. Ou sur le problème de lisibilité de l'image. On en est déjà là, alors que les gens n'ont pas encore réalisé des films de mariage qui sont regardables jusqu'au bout. Hein, voilà.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est à fois fascinant, hyper intéressant, et en même temps, il y a une mission pratiquement publique d'urgence sociale. Les gens sont perdus dans leur rapport à l'image avec ce genre de... J'ai envie d'appeler ça une production, oui.
Bien sûr, mais je vous réponds et je
parle. C'est juste une question.
Non, vas-y.
C'était juste, est-ce qu'il existe un espace privé sur YouTube ou pas? Est-ce qu'on est obligé d'être public sur YouTube? Je veux dire,
ça peut être privé.
On peut choisir de don, c'est quand même un choix.
Oui.
Okay.
Oui. Au début, c'était ouvert. À l'époque où il l'a mis en ligne, il n'y avait pas encore ces distinctions.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on peut mettre
on
des
peut
vidéos
choisir
en privé. Absolument, absolument. Mais je pense que c'est ce que vous dites, c'est vraiment hyper important. En effet, c'est la question du réel, ce qu'on avait aussi dans la réalité virtuelle. Je pense que comment travailler ça, en fait, je trouve que justement faire des propositions de création, de mise en scène, de point de vue, de subjectivité assumée, de faire des objets audiovisuels, d'être dans le ludique, d'être dans le plaisir, de le partager... J'ai l'impression que c'est la meilleure façon finalement d'agir, parce que du coup, par l'action, on va se rendre compte que tout est mis en scène, etc. Et du coup, peut-être on sera un petit peu plus conscient de ce qu'on est en train de faire au quotidien. Et parce que je pense que comme ça fait partie du quotidien et que ça participe de la vie quotidienne, c'est très difficile de se positionner contre. Parce que si on se positionne contre, du coup, on juge finalement l'usage quotidien des gens. Mais ils ont ça dans leur usage quotidien. Et du coup, si on les juge négativement, c'est pas parce que c'est un truc moralisateur en fait qui fonctionne assez mal. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt dans les propositions d'action, de passer par la bande, si j'ose dire, de faire autre chose. Ça va éclairer finalement le sujet principal qu'on veut éclairer. Mais comment faire pour le traiter?
Il faudrait dénouer. Alors, le problème devient beaucoup plus complexe. Moi, j'ai fait de l'éducation à l'image pendant des années. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et sur lequel il faut commencer à travailler sur la lisibilité, la lecture,
ouais, etc.
Et ça devient le problème devient corsé. Ça se corse un peu.
Il est corsé et je voudrais rajouter deux éléments qui corsent encore plus le problème, parce que c'est vrai qu'il est très très corsé.
Ouais, il est corsé.
Alors, le premier, c'est les images sur les réseaux sociaux qu'on partage, par exemple la photo de profil Facebook qui change tout le temps. Les gens, enfin pas moi, les jeunes gens, ils changent beaucoup très souvent leur photo de profil, et on se dit mais c'est complètement frénétique, c'est ridicule, c'est une addiction et des choses comme ça.
Ils le font parce qu'ils peuvent le faire.
Ils le font parce qu'ils peuvent le faire, mais je pense qu'ils le font aussi, à mon avis, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que quand on échange sur les réseaux sociaux, en fait, on voit l'image de son interlocuteur qui voit notre image. Et du coup, en fonction de l'image qu'on voit, bah, ça modélise notre relation. Quelqu'un qui est habillé en jean ou en costard, on n'est pas dans la même relation, qui est maquillé comme ci, qui est coiffé comme ça. Et finalement, les échanges qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est des échanges réels, c'est pas virtuel du tout, c'est réel. On est en échange avec les gens. C'est comme quand on se téléphone, on se parle réellement. Je veux dire, c'est médiatisé par un outil technique, mais donc c'est pas du tout virtuel. Et du coup, je veux dire, chaque matin, quand on part de chez nous, on s'habille, on se maquille, on choisit comment on va modéliser finalement notre relation à l'autre. Et sur les réseaux sociaux, ça passe par l'image. Donc en fait, c'est comme un habit ou un maquillage, d'une certaine manière, cette image. Du coup, elle n'a plus la même fonction mémorielle que celle qu'elle avait pour nous. Il y a aussi autre chose, vous le faites peut-être, quand on envoie des photos à des gens par MMS, par exemple. On fait une photo, on l'envoie. Avant tout ça, avant 2005, parce que tout ça c'est arrivé, pour moi c'est vraiment une année charnière 2005. Avant 2005, si je voulais faire une image, que ce soit une photo ou une vidéo, il fallait le matin que je décide de prendre mon appareil photo ou ma caméra. Ah, ce soir il y a la fête de fin d'année à l'école, donc je prends mon caméscope pour pouvoir être en mesure. Aujourd'hui, on a cette chose dans la poche tout le temps. Du coup, avant, si vous voulez, il y avait, avant même la fabrication de quelque image que ce soit, il y avait une élaboration, un choix. Il y avait des mots avant l'image, en fait. Il fallait des mots, une intention, une pensée, voilà. Alors que, et puis quand on diffusait une image, je veux dire, il y a un titre au film, enfin, il y a des mots avant, il y a des mots après aussi, on parle de ce qu'on a vu, etc. Du coup, l'image, on sait que c'est un langage, mais c'est quand même une sorte de métalangage. Il y a le langage des mots, et puis l'image, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, si je vois un truc sympa, je le prends en photo, et je l'envoie à des interlocuteurs, soit sur Twitter à mon groupe d'amis, ou soit ne serait-ce que par MMS à quelqu'un. Mais du coup, en fait, c'est comme une élocution, c'est-à-dire que je fabrique une image, et je l'envoie directement à un interlocuteur. Donc c'est comme parparler, en fait, d'une certaine manière. Donc, pour moi, je crois qu'il y a une forme d'oralité comme ça des images. Faire et diffuser une image, c'est devenu un acte de langage au sens premier du terme. Il n'y a pas forcément de mots qui précèdent les images aujourd'hui. Et du coup, tant et si bien qu'il y a eu depuis quelques années une application qui s'appelle Snapchat, que vous connaissez sans doute. Pour ceux qui ont des ados, vous la connaissez sûrement. En fait, on fait une photo, on l'envoie à ses interlocuteurs et elle reste 5 ou 10 secondes et elle disparaît à tout jamais, sauf s'ils ont réussi à faire la capture d'écran entre temps. Et du coup, on a vraiment une forme d'oralité, c'est-à-dire que l'image n'est plus de la mémoire, en fait, elle est de la conversation. Et du coup, c'est encore une fonction, moi personnellement, que je ne comprends pas bien, parce que ce n'est pas du tout ma culture, mais pourtant il y a des gens qui utilisent l'image comme
c'est éphémère.
C'est éphémère. Et du coup, si vous voulez, en termes d'usage, je disais tout à l'heure, sur YouTube, il y a 5 milliards de vidéos qui sont vues chaque jour. Mais sur Snapchat, il y a 10 milliards d'images qui sont échangées chaque jour. Donc c'est beaucoup plus massif encore que ça. Donc là, pour moi, personnellement, ça m'échappe. Mais je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Je ne sais pas lesquelles.
Il y a un glissement de mots. Avant, on faisait des images pour s'exprimer. Maintenant, on demande juste d'être témoin. Ce passage de exprimez-vous, soyez témoin, déjà connote une forme de passivité. Enfin, voilà, on est juste témoin de quelque chose et on capte ça. BFM TV est la spécialiste du témoin, par exemple.
Oui, oui, oui.
On demande aux gens de témoigner, juste de témoigner, c'est pas s'exprimer.
C'est vrai.
On passe devant le monde et on le capte, en fait, on enregistre.
Oui, mais c'est à tous les niveaux, parce que tu vois, là, nous, je sais pas si c'est vu de partout, mais là, il y a des chaînes, là, Usine Actu, ça, c'est des chaînes locales au niveau. Sur Facebook ou quoi, et les gens, premier accident qu'ils voient à côté de chez toi, et paf, c'est balancé. Premier événement accidentel ou. Tout est de cet ordre-là aujourd'hui, à tous les niveaux.
Le leur, c'est peut-être de leur faire croire qu'ils s'expriment, alors qu'en fait, ils sont juste participants.
Et après, ils commentent. Ils s'expriment pas vraiment, mais.
Oui.
Ils vont leurs commentaires.
La question par rapport à une application comme Snapchat. Je me dis, si par exemple on imaginait une activité de médiation avec ce type d'application, pourquoi pas. Après, je me dis, finalement, en y allant, les jeunes ils vont trouver autre chose parce que ça va être ça va plus être leur endroit.
Oui.
Comme Facebook maintenant où il y a toutes les pages institutionnelles, du coup c'est délaissé et puis c'est au profit d'autres supports. Après, peu importe. Hein.
Oui,
je pense que c'est un mouvement quoi.
Moi, je pense que, en effet, il faut voir comment on peut détourner les outils. Enfin, c'est comme le stylo qui est quotidien, et on peut faire un atelier d'écriture avec un stylo. Ça va être une activité pas quotidienne. Et du coup, je pense que on peut utiliser Snapchat, c'est un outil qu'ils connaissent, mais pour faire autre chose que ce qu'ils font au quotidien.
Mais ce que tu veux dire, Noémie, c'est sans l'idée de coller à ce qui, parce que finalement, du moment que des institutionnels, parce que nous, dans le regard d'un jeune, j'espère qu'on est vieux et con quand même.
Bah, c'est clair.
Donc, du coup, ça veut dire que lui, il aura déjà un autre lieu avec autre chose. Mais peut-être que la réappropriation de quelque chose comme Snapchat, même si pour lui, c'est déjà vieux d'il y a au moins un an, malgré tout, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose peut-être à imaginer quand même.
Oui.
C'est pas pour ça que c'est
complètement
intéressant, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, si nous, on en est à s'interroger sur Snapchat, c'est déjà peut-être qu'il y a d'autres lieux qui émergent en ce moment.
En tout cas,
il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des jeunes sur Snapchat.
Oui, en plus.
On retrouve des médiathèques, on retrouve des structures culturelles, des gens qui sont pas milieu, où ils se trouvent, les jeunes, quoi, je veux dire. C'est bien aussi d'aller trouver là où ils sont. Quoi.
Et je pense que la question de la mémoire, les choses qu'on conserve, qu'on mémorise, c'est aussi une valeur qu'on leur donne. C'est pour ça que moi, je mets aussi des films en ligne, que je les laisse disponibles sur des serveurs, etc. C'est-à-dire que on a l'impression que l'image, ça va vite.
C'est limité aussi.
Pardon ?
Le côté Snapchat par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, de pouvoir avoir un endroit où montrer la production et la réalisation, elle est vraiment mise en question avec Snapchat.
Parce que maintenant, on peut conserver ces vidéos. Ils ont créé ce qu'ils appellent les stories. Et maintenant, on n'est plus dans l'éphémère. On peut à nouveau conserver. On revient à un modèle.
En fait, on peut assembler, créer une story et assembler un certain nombre de vidéos pour faire. Et en effet, c'est marrant parce que dans un petit événement que j'ai fait à côté de Marseille il n'y a pas longtemps, il y avait un film comme ça qui avait été fait avec Snapchat, une story, donc avec les séquences assemblées de façon chronologique en fait. Et du coup, ils avaient fait un film comme ça, le montage fait avec l'application Snapchat. C'était assez intéressant.
Comme
il y avait un autre projet, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de créer quelque chose avec cet outil-là, c'était pas mal.
Ça montre aussi, on a l'impression, les utilisateurs de réseaux sociaux, le besoin d'être aimé. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire beaucoup de choses par rapport au nombre de clics, et par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre de j'aime, etc. C'est ce que tu disais finalement tout à l'heure. Je trouve que c'est encore pire que sur YouTube. YouTube, il faut faire la vidéo, ça prend quand même un petit peu de temps, éventuellement la monter ou pas, en tout cas faire. Ça prend un petit peu de temps. Les réseaux sociaux, il suffit de faire une photo, etc. Et souvent, ce qui est problématique, c'est que les jeunes vont ne pas faire une photo parce qu'ils sauront déjà qu'ils n'auront pas assez de j'aime. Pas assez de cœur, pas assez de ceci. Ils diront, celle-ci, elle ne sert à rien parce qu'elle n'est pas assez originale ou en tout cas, elle ne rapportera pas assez de public. Donc, il y a aussi une recherche finalement, malgré tout, de comme les producteurs ou en tout cas de public potentiel. Est-ce que je produis quelque chose par rapport à un public et est-ce que ce public sera important pour ce que je fais, à savoir est-ce que j'aurai 10 j'aime ou ça va passer à côté. Dans ce cas-là, si j'en ai que deux, ceux qui verront que j'en ai que deux vont me trouver ridicule, etc.
c'est là où ils construisent leur identité. C'est-à-dire que
c'est ça.
Ce qu'ils ont envie de donner à voir, ils ont besoin de se dire je vais me démarquer, je vais me singulariser, donc je vais montrer cette image ou pas.
Oui, mais c'est plutôt de la normalisation que de la singularisation, hein, d'ailleurs. Hein, c'est plutôt correspondre à ce qui marche.
C'est pas nouveau. Enfin, quand on s'habille
c'est
avec.
Pas nouveau, c'est
de,
pas.
De
bien sûr.
Plutôt que de tel autre.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Là, c'est d'autres voies de le faire. C'est d'autres
Absolument.
Manières de le faire, mais il n'y a rien de. L'idée de
se mouler
dans.
Social,
voilà. De se conformer à la, ou pas à une norme.
Bien sûr. Bien sûr, bien
Quand
sûr.
On est ado, je pense que c'est.
Oui, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Peut-être que j'entends beaucoup aussi parler des effets de narcissisation, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop tendance à appuyer là-dessus avec ces nouvelles technologies. Le cinéma est déjà en soi un processus de narcissisation. Mmh. Sauf que comme ce sont des auteurs, il y a une sorte de légitimité chez eux.
Ouais, c'est vrai.
Clint Eastwood. Participe ouais. du cinéma de façon très narcissique. Hein.
Bien
il
sûr.
Se met en scène, il fait ses propres. Enfin voilà, on pourrait très bien lui dire aussi bah dis mon petit gars, toi aussi tu construis. Sauf que bon, comme c'est du cinéma, que c'est un art,
mmh.
il y a une forme de légitimité qui assouplit le discours, mais le processus est le même.
Mmh.
L'image est un moyen pour se faire aimer, pour convaincre de ce qu'on est.
Là.
Ça marche dans le cinéma, ça marche sur YouTube, ça a marché pour des groupes politiques. Se sont servis de l'image d'une façon formidable.
Bien sûr.
Enfin, formidable. En tout cas, pour promouvoir et cette dimension-là,
Bien
pour
sûr.
Moi, est ontologiquement liée à l'histoire du cinéma depuis les débuts.
Complètement.
Voilà, même Lumière, qu'est-ce qu'il fait ? Il filme ses propres usines. Donc, en fait, il filme son propre patrimoine.
Absolument.
Il n'a pas filmé le voisin.
Ouais, ouais, complètement.
Voilà, quoi. Et Clint Eastwood, voilà. Et là, on est sur les mêmes
mécaniques. Oui. C'est pas pire, et c'est vrai que je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas de position morale négative à avoir, ça relève des mêmes processus. Absolument.
Comme on leur donne l'occasion de se fantasmer en tant qu'auteur, ils saisissent l'occasion.
Bien sûr, bien sûr. Et sur les fonctions de l'image, je voudrais parler d'un dernier élément, c'est la vidéo live. Parce que ça, c'est encore autre chose et qui est quand même assez important. La vidéo live, ça existe en gros de façon massive depuis 2 ans. Au départ, c'est une application qui a été lancée il y a un peu plus de 2 ans par Twitter qui s'appelle Periscope. Et il y a un peu plus d'un an, Facebook, qui est toujours à la traîne mais qui généralement reprend la mise après, a lancé Facebook Live. Du coup, alors, juste comment ça marche le live, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous prenez votre téléphone, je n'ai pas de téléphone là, mais enfin, vous prenez votre téléphone, vous connectez à l'application Periscope, par exemple, et vous vous filmez. Alors, avant de vous filmer, vous mettez un petit titre et vous vous filmez, voilà. Ou vous filmez ce que vous êtes en train de voir. Et en fait, les autres personnes qui ont la même application dans leur téléphone, Periscope, qui il y a un an était une des applications les plus téléchargées. Ensuite, Facebook est passé devant largement, mais à l'époque, c'était très très employé. Ça a d'ailleurs été beaucoup employé pour Nuit Debout, Periscope. Et donc, les autres utilisateurs, ils voient, Grenoble, Saint-Égrève, il y a 3 personnes, il y a un petit chiffre 3, et on se balade sur un planisphère, comme une Google Map, et puis on clique, et là on a, peut-être ici on serait 3 en train de se filmer avec Periscope, et on a le petit titre que chacun a mis, et ensuite on se connecte et on voit sur son téléphone ce qui est en direct filmé par quelqu'un qui est en direct en fait, c'est du direct personnel quoi en fait, Periscope. Vous voyez ce que.
Oui,
non, vous n'avez
pas
compris.
Parce qu'il y en a qui se filmaient dans les supermarchés en train de faire leurs courses, histoire que.
Voilà, je suis en train de faire mes courses et n'importe qui peut me regarder en direct, en fait.
Non, mais pour dire l'intérêt de l'action à retransmettre,
quoi. Oui,
oui. Tu n'as pas pris les bons.
Voilà. Alors, du coup, bon, voilà, c'est du direct personnel. Il y a une chose importante, j'ai fait une expérience l'année dernière avec Periscope pour le premier anniversaire et je vous indiquerai le lien parce qu'on a fait une captation de cette expérience. Parce que comment utiliser ça en fait, nous on a mis sur scène, je vais vous expliquer. Quand on est en train de se filmer, les gens qui nous regardent,
peuvent envoyer des commentaires écrits. Donc je vois apparaître sur mon écran des commentaires écrits. Et je vois aussi combien de personnes sont connectées. Du coup, ça produit des choses du genre deux copains qui disent dans Periscope « Ah ben voilà, quand vous serez 50, on va prendre le mec qui est là, qu'on ne connaît pas, puis on va lui casser la gueule quand vous serez 50. » Alors, il y a 50 personnes, et ben hop, ils font ce qu'ils ont dit, par exemple.
Ils n'ont pas fait un film.
Y a un film là-dessus.
Il me semble qu'il y a un truc.
Peut-être, oui, oui. Ouais, peut-être, ouais.
Ils ne savent pas trop où ils vont, ce qu'ils font, et puis ils sont suivis par plein de gens. Et...
Ah ouais.
Ça me parle, un film pour les ados, ouais.
Peut-être, ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction, c'est-à-dire je me filme et il y a des gens, il y a une interaction par le texte, en fait. Moi, pour avoir expérimenté ça, donc l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, j'ai été frappé d'une chose, c'est l'extrême violence des commentaires écrits. Et notamment pour les jeunes femmes qui se filment dans leur chambre en train de s'ennuyer, c'est d'une violence sexiste incroyable que j'aurais même pas imaginé. C'est vraiment dur, en fait. Ouais.
C'est parce qu'avec les commentaires, on ne risque rien.
C'est ça.
On est là et pas là.
Voilà. Mais c'est vraiment... C'est bizarre. Et c'est pour ça que nous, on a fait un truc sur scène où on voit Periscope est repris sur un grand écran.
Ah oui, ouais,
et on a une comédienne, en fait. Les gens ne savent pas que c'est une comédienne. Et du coup, on voit sur l'écran en énorme les textes ignobles qui arrivent. Et voir ça en énorme, enfin, ça permet de se rendre compte de ce que c'est et même de savoir que ça existe. Parce que dans la salle, c'était au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Je pense que 90% des gens qui étaient dans la salle l'année dernière ne savaient même pas que ça existait. Parce que les gens, à la fin, nous ont dit « Mais c'est inventé, votre truc, ça n'existe pas dans la réalité. » Alors que si. Et qu'on a eu, si vous voulez... Il y avait les 200 personnes qui étaient dans la salle qui ont vu le spectacle. Et pendant, et ça c'était assez court, ça durait 20 minutes, pendant les 20 minutes, il y a 2500 personnes qui se sont connectées. Sauf que nous, c'était une fiction, en fait, qu'on proposait. Donc au départ, ils pensaient que c'était la réalité. Et à un moment donné, ça va complètement ailleurs. Et du coup, les gens sur le réseau qui pensaient être face à une jeune fille, en fait, il y avait toute une dramaturgie. Elle va rencontrer quelqu'un de dangereux. Donc les gens lui disaient non, n'y va pas. Enfin, il y avait en fait toute une dramaturgie dans le réel. De ces spectateurs qui ignoraient qu'ils étaient utilisés en fait dans le cadre d'un spectacle. Donc il y avait cette double proposition. Donc c'est comme ça que moi j'ai essayé de l'employer. Juste si vous voulez voir la captation de ça, vous allez dans mon site, là vous allez dans il y a une rubrique qui s'appelle Innovation et dedans il y a une rubrique qui s'appelle Spectacle vivant. Et là, il y a quelques trucs, mais c'est ce spectacle-là. Parce qu'il y a eu plein d'autres choses. Mais enfin bon, je vous passe les détails. L'année dernière, en effet, il y a une jeune femme qui s'est suicidée via Periscope. Et ça, c'est quand même assez intéressant, et je terminerai peut-être là-dessus, par rapport aux fonctions de l'image, c'est que en fait, il y avait toute une mise en scène, tout un storytelling de son suicide. C'est-à-dire que depuis 15 jours, elle se connectait régulièrement. Il y avait une date prévue où il allait se passer quelque chose de très important. Ce n'était pas nommé explicitement. Enfin, c'était cousu de fil blanc. Et elle avait à peu près 1000 personnes qui la regardaient, en fait. Alors, ce n'est pas Periscope qui a inventé la mise en scène du suicide, hein, bien sûr. Hein, c'est pareil, hein, c'est des choses qui existent depuis de longue date. Mais là où ça pose une question importante, me semble-t-il, par rapport à l'image, c'est d'une part qu'au moment où elle s'est pas ratée, hein, où elle s'est jetée sous un train, ben, il y a quand même 1000 personnes qui ont assisté à ça en direct. Et d'ailleurs, c'est un peu le premier dont on a parlé, mais depuis lors, des morts en direct dans Facebook Live, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait pas une mort en direct dans Facebook Live. Hein, mais là où, pour elle, je reviens sur cet exemple-là, donc d'une part, elle se suicide en direct. Donc les pré-ados qui sont en train de regarder ça, c'est pas simple, hein, je veux dire en termes traumatiques, hein, de vivre cette expérience-là, même si elle est à distance. Et l'autre chose, c'est que dans la mesure où les gens qui regardent peuvent faire des commentaires et sont conscients de ce qui se passe, au niveau des tribunaux, il y a une question de non-assistance à personne en danger.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde une image, je suis responsable aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que...
Et heureusement,
absolument. Mais ça, c'est encore une nouvelle fonction de l'image. Avant, j'étais juste spectateur. Mais aujourd'hui, je suis acteur de la situation qui est à distance. Et du coup, c'est vraiment, si vous voulez, l'image médiatise notre vie réelle, en fait. Hein. C'est plus...
Je ne suis pas certaine que tout le monde ait conscience de ça. C'est-à-dire que de cet aspect de risque, si on n'intervient pas et de non-assistance... Parce que même si c'est du réel, l'aspect médiatisation, enfin l'aspect écran, fait qu'il y a quand même un truc, comme aussi bien que la personne qui met des commentaires sexistes sur une jeune fille en train de se filmer sur Periscope, elle se sent protégée. Est-ce que de voir un événement dramatique en train de se passer et peut-être d'être sidéré et peut-être de se sentir bien à l'abri chez soi, est-ce que ça peut pas empêcher, c'est pas pour excuser, hein, mais est-ce que tout le monde a conscience de ce... de cette responsabilité?
Sans doute pas. En tout cas, cette responsabilité va de pair avec la mise en scène dont tu parlais tout à l'heure, la mise en scène de soi. Enfin, tout ça est intrinsèquement lié. Et du coup, en effet, c'est des enjeux très importants parce que la responsabilité est vraiment énorme en fait face à l'image en fait, beaucoup plus qu'avant. Et du coup, moi encore par rapport à ce que tu dis, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Parce que là encore, le moralisme, par exemple, le droit à l'image, quand on dit qu'il faut faire signer des autorisations de droit à l'image, mais dans la vie quotidienne, sans arrêt, je prends des gens en photo et je diffuse leurs images et je ne fais pas signer des autorisations de droit à l'image. Et pourquoi, dans le cadre d'un atelier, tout à coup, ça, je dois faire signer des autorisations ? Mais je ne comprends pas. Enfin, et du coup, c'est en passant par la pratique, par l'expérience et je crois par la projection collective, parce que quand on fait un film, qu'on est vraiment responsable de son film, qu'on a fait le montage, etc., et qu'on a préparé la séance collectivement, pour moi les ateliers, pour prendre juste l'exemple d'un atelier de pratique artistique, avant passer les étapes de l'écriture du scénario, de l'organisation du tournage, du montage, etc., ça permettait de comprendre l'envers du décor et du coup ça permettait à ces spectateurs qu'on voulait éclairer d'être conscients et du coup d'avoir plus d'esprit critique que s'ils n'avaient pas compris comment on fait les films. Mais aujourd'hui les gens ils sont plus seulement spectateurs, ils sont producteurs et diffuseurs d'objets audiovisuels et du coup il me semble que dans les ateliers de pratique artistique, et ça se relie du coup à la question de la salle et de l'exploitation, à mon avis il faut aller jusqu'à montrer les films. Et ça fait, pour moi, ça fait pleinement partie de l'atelier. C'est-à-dire que non seulement on fait un film, mais on organise la séance. Organiser la séance, ça veut dire aussi faire la communication, faire l'affiche, faire en sorte que des gens viennent, qu'est-ce qu'on va dire, se préparer, etc., etc. Et du coup, ça veut dire qu'on donne une importance symbolique au fait de montrer le film. Et moi, dans tout atelier que je fais aujourd'hui, le point de départ, c'est de dire... c'est prévu, c'est-à-dire la date de projection elle est déjà prévue, c'est pas ah si on peut, non c'est prévu et c'est des choses face notamment aux institutions que je tiens. Par exemple l'année dernière c'était un atelier avec 6 classes d'école primaire en Ile-de-France, un des ateliers que j'ai fait et je voulais absolument qu'il y ait une projection commune, ils étaient dans 3 villes différentes, loin, qu'ils prennent le car etc. pour qu'ils puissent se préparer à la séance, voir les films des autres, c'était sur la même thématique. C'était central. Et je voyais bien que mes interlocuteurs, oh là là, c'est tellement compliqué à organiser, etc. Mais pour moi, c'est le cœur du projet, ce moment où on se retrouve et on voit les films ensemble, parce que c'est ce qui donne sens, c'est ce qui donne la motivation, etc. Et du coup, on l'a fait, on l'a tenu. La séance, elle était magnifique. Et du coup, les jeunes, comme ils avaient été préparés, ils ont présenté leur film. Avant la séance, on leur a bien dit, préparer des questions, c'est-à-dire ils sont plus juste spectateurs passifs, ils regardent les films mais on leur a dit juste avant, mais après on va en parler, et du coup et ils voient des films faits sur la même thématique par d'autres jeunes qui ont le même âge dans d'autres villes, en plus ils ont traversé le territoire donc ils ont peut-être découvert des lieux qu'ils n'avaient jamais vus parce qu'on sait qu'on sort pas trop de chez soi, etc. Du coup il y a tout un sens social à ce moment collectif très fort, et du coup quand on a fait un film et qu'il y a eu toute cette préparation autour de la projection, vous savez comme moi, le moment où la lumière s'éteint et où c'est mon film qui passe, j'ai la peur de ma vie, quoi. D'une part, j'ai la peur de ma vie, et en plus, il y a des réactions des gens. Et du coup, je vis dans mon corps, dans mes émotions, que l'image, c'est important. Et du coup, c'est aussi pour te répondre sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions-là. Ben moi, je crois que faire des films et travailler ensemble, justement, en partenariat entre différents lieux, etc., pour les montrer, les valoriser, leur donner de l'importance, ben je crois qu'on répond à peu près à tous les objectifs en faisant ça, c'est-à-dire à la fois de prise de conscience de qu'est-ce que c'est que les images, etc., de positionnement personnel, et puis à la fois de sens du collectif, du sens de la salle. Et si j'ai vécu ça avec mes propres films dans une salle, eh ben, j'ai vécu une expérience tellement forte que je peux aussi avoir envie d'y retourner. Donc c'est un élément parmi d'autres. Alors juste pour terminer, parce que je vois quand même qu'il est midi 20, c'est-à-dire que c'est pas du... voilà, hein, mais voilà. Bref, ce que je voulais vous dire... c'est le projet éducation à l'image 2.1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, je vous proposerai de vous envoyer le pré-dossier pour que vous voyez un petit peu les réflexions qu'on a, et puis voilà, c'est un projet qui est pour le moment sur l'Île-de-France, mais où il s'agit enfin voilà, je vous montre vite fait le dossier, mais je vous le ferai suivre, enfin le lien pour le télécharger, avec donc des idées de travailler ensemble, d'imaginer des choses ensemble, un peu ce qu'on va faire cet après-midi, de les tester et à la fin de faire une publication. Voilà, c'était juste pour vous indiquer qu'il y a ce projet qui existe, c'est-à-dire que vraiment pour moi, ce que je pense, c'est que avoir une réflexion, une pensée un petit peu théorique, sociologique, économique de tout ça, c'est vachement important pour savoir quels sont nos objectifs, quoi. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, parce que parfois, je parlais tout à l'heure de Vitre Hollywood, c'est des gens que j'aime beaucoup, mais je veux dire, pour moi, c'est pas que ça sert à rien, c'est toujours mieux de faire ça que de rien faire, mais ça sert presque à rien, c'est-à-dire que on se fait plaisir, mais on ne travaille pas les vrais enjeux, en fait, qui sont des enjeux forts, à mon avis, pour nous. Voilà. Attendez, au niveau des outils, voilà. Donc bon, je m'arrête là pour ce que je voulais vous raconter. Donc on a pas mal échangé. Je sais pas si alors d'ailleurs, au niveau de l'organisation, parce que je pense que ce qu'on peut peut-être faire, c'est terminer en quelques minutes, oui, s'il y a quelques remarques, et ensuite on part sur les petits groupes.
Voilà.
Comme ça, ça nous fait une petite...
sur un temps plus court que ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. L'idée, voilà, c'est plutôt d'identifier avec qui vous allez être, le sujet que vous avez, et puis voilà, et puis après on ira manger rapidement.
Voilà.
Rassurez-vous, parce qu'on est tous voilà. Et puis quand on aura fini, on reviendra en salle pour un temps un peu collectif, avant de repartir en lab. J'aime bien dire,
ah oui,
c'est pas groupe.
On revient à 14h, on revient, ouais. D'accord.
Donc, mais voilà, après, je sais pas si du coup il y a encore des. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à. Voilà, on n'est pas. On n'est pas à la minute pour le coup. Donc c'est important, c'est des choses du coup qui sont transversales, hein, par rapport à ce qu'on va évoquer sur les trois groupes. Et juste pour revenir à aussi la particularité de ce qu'on fait en région aussi. Depuis un petit moment, la logique de transversalité, de questionner les images, le fait que, comme tu dis, qu'il y ait une transversalité des acteurs, une réflexion sur les objectifs, on se rend compte qu'il y a besoin de réfléchir les objectifs ensemble, et ça est du coup, comme des journées comme celle-ci, comme, enfin voilà, vous le savez bien, avec qui on travaille comme ça, mais c'est vrai que du coup, c'est des actions, moi je te rejoins complètement sur la logique de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est des actions qui sont importante et urgente par rapport. Quand tu parlais d'urgence tout à l'heure, Benjamin, il y a une urgence, c'est ça, que du coup, il y a un besoin de faire ces actions de médiation, donc un besoin de s'y coller tous, et avec des moyens humains, comme là. Et après, du coup, comme des dispositifs, parce que du coup, tu parles du dispositif éducation aux images 2.1, que j'ai lu hier, mais qui du coup devrait effectivement. apporter une recherche-action. Et c'est vrai que du coup, une journée comme celle-là, juste pour raccrocher avec une réalité concrète, ça va être ça aussi tout à l'heure. Enfin, de continuer la réflexion avec des questionnements sur des outils, des choses comme ça. Donc, on continue sur tout ça.
Et je voudrais, je pense à deux petits trucs que je voulais vous dire aussi très rapidement. Le mot amateur, il y a un philosophe assez chouette français qui s'appelle Bernard Stiegler, et voilà, qui parle de la figure de l'amateur, c'est celui qui aime en fait, et qui revalorise cette dimension. C'est assez beau, voilà, et il parle aussi pas mal des outils, ce qu'il appelle la mémoire outillée, le fait que tous ces outils, en fait, ce sont des adjuvants à notre mémoire. Et de toute façon, on est en train de devenir... ça fait un peu science-fiction de dire ça, mais on est en train de fusionner avec les machines. Hein, et le futur de l'humanité, c'est d'être des cyborgs. Hein, c'est comme ça. Et bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est en train de nous arriver, ne serait-ce qu'avec notre GPS. Je veux dire, on est plus seul à décider de notre parcours. Il y a beaucoup de machines qui décident des choses pour nous. Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la façon de mener les projets, comme ça change vachement tout ça, il y a beaucoup d'usages nouveaux, etc., je pense que c'est intéressant d'essayer d'être à l'écoute, notamment des jeunes, de leur demander de partager leurs expériences. C'est pas du tout pour dévaloriser notre propre expérience, notre propre compétence, mais je pense vraiment qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de ce qu'ils vivent. Moi, c'est ce que j'avais constaté avec Periscope. Je découvrais un monde dont j'ignorais même l'existence et qui concernait les images. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment des espaces de dialogue à construire. Et il y a des endroits où vraiment, moi, je me sens, je ne comprends pas ce qui se passe. Et du coup, je sais que c'est là que je dois aller, en fait. C'est là que je dois aller inventer des choses avec les gens. Parce que je crois que justement y a un risque en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si je propose une action, un atelier, et que je suis tranquille dans mes baskets, que j'ai l'impression de tout maîtriser, ça veut dire que je suis vraiment en train de très très mal travailler là. Parce que je fais en sorte de me rassurer. Et que précisément les enjeux des images, là où il y a des enjeux forts, c'est dans ce qui ne nous rassure pas, et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important là. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. Je ne dis pas qu'il faut être à l'impro et partir. Il faut avoir plein d'idées, préparer plein de choses, mais être capable, essayer en tout cas, de se remettre en question.
Sortir de la zone de confort.
C'est ça, tenter des trucs, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, etc. Faire confiance aussi, donner de l'autonomie. Enfin, tout ça, c'est facile à dire. Et en fait, ce n'est pas facile à vivre. Et du coup, voilà, par exemple, moi-même, pour ce matin, j'ai toute la nuit, je me suis posé, je monte le truc de réalité virtuelle, je monte les films, enfin, j'avais plein de possibilités, j'avais plusieurs idées de ce que j'allais vous montrer, mais jusqu'au dernier moment, en arrivant, j'étais pas sûr que c'était le bon choix, enfin, c'est-à-dire que j'étais en questionnement, en fait, vraiment, et voilà, sortir de sa zone de confort, c'est loin d'être facile à faire. Par exemple, si vous voulez, quand moi je fais faire des films avec des drones, ça se crache, ça part, ça se perd, etc. Et quand vous donnez la télécommande à un gamin et que vous décidez de lui faire confiance, généralement je m'en vais, je les laisse faire, parce que j'ai trop peur de voir mon truc qui va être perdu. Parce que moi-même, j'ai souvent perdu des drones. Voilà. Mais... Absolument, mais vous ne croyez pas si bien dire. Il faut expérimenter. Il y a un atelier que j'ai fait cet été avec drone comme ça, avec dans la forêt, etc. Et je pilotais le drone, et du coup, à un moment, je le mets au-dessus d'un lac. Et je voulais que tout ça. Et en fait, c'est très automatisé, les drones. En fait, et je le mets au-dessus du lac, et il s'en va. J'avais perdu les commandes, il s'en va. Donc je me suis dit, bon, et du coup maintenant je sais, je ne le mettrai plus au-dessus de l'eau. J'ai appris. Mais si vous voulez, bien sûr, et les jeunes m'ont dit, mais t'es sûr au-dessus de l'eau? Et je dis, ouais, mais si, ça va faire un beau plan, etc. Mais donc j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Et on a passé un temps dingue, on est allé à l'autre bout, on l'a retrouvé finalement, etc. Mais enfin, j'ai pensé que c'était le deuxième matin, que j'avais peut-être perdu mon drone, ça coûte cher. Hein. Mais du coup, il a filmé pendant ce temps-là, ouais. Et c'est un magnifique plan, ah ouais. C'est le premier plan du film, C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'erreur, si vous voulez. Et du coup, finalement, ce risque qu'on prend aussi, bah, du coup, on n'est pas soit dans son confort. Avec Periscope, l'année dernière, on a fait une séance à un moment où on s'est chacun mis devant Periscope, et moi aussi. Et je peux vous dire que, du coup, on avait une connexion Periscope, on y allait et on recevait les commentaires des gens. Et du coup, c'était avant moi, c'était des jeunes filles. Et moi, j'arrive, et du coup, je remplace une jeune fille. J'ai eu une volée de commentaires, mais je ne sais même plus, je les ai refoulés, quoi, tellement c'était ignoble ce que j'ai reçu. Ouais. Je suis resté 3 minutes. Mais du coup, j'y suis allé aussi, vous voyez. Et ce n'est pas du tout perdre sa position d'encadrant du groupe, hein. Je veux dire, c'est pas. On se risque, mais se risquer. C'est pas du tout être destitué de sa place, en fait. Hein. C'est au contraire être. On est chacun à sa place de toute façon. Ça, on ne peut pas nous l'enlever institutionnellement. C'est nous l'animateur, etc. Et du coup, ça vaut le coup de se risquer parce que j'ai bien senti les étudiants. Pourtant, c'était des grands. Hein. C'était des étudiants de la FEMIS et du conservatoire. Mais j'ai bien senti ce que ça avait fait basculer. C'est-à-dire, je m'étais risqué. Je n'étais pas resté, comme il a dit, dans ma zone de confort. C'est eux qui font et moi, j'encadre. Non, non, je participe au projet. Et du coup, le ensemble, c'est ensemble avec la personne qui anime. Et c'est pas facile. Hein.
Jeu du cirque, ouais. Hein, c'est comme ça.
Ouais.
Pour revenir sur ton expérience avec Periscope, c'était un truc, vous avez fait un live, c'est ça? Non, comment,
Oui, t'étais pas là, en fait, j'ai tout expliqué, mais expliqué, quand t'étais pas là.
Okay.
Du coup, voilà.
C'est bon.
Mais je te dirai tout seul si tu veux.
Non, mais je m'en rappelle. Hein,
oui, je t'en avais parlé. Ouais. Mais j'ai raconté l'histoire, oui.
Mais peut-être que la première sortie de la zone de confort, c'est quand on a tous opéré ce glissement de l'éducation à l'image, à l'éducation aux images. Alors qu'on a tous des parcours professionnels, hein. On est soit de l'éducation populaire, soit, moi c'est plutôt école du cinéma, théorie, donc moi j'ai connu l'éducation à l'image, on parlait des films dans les salles, donc c'est la tradition du ciné-club, et ensuite des dispositifs, hein, école, collège, lycée au cinéma, des images, entre guillemets, considérées comme nobles, puisque reconnues, etc. Et qu'à un moment, il faut se rendre compte que voilà, ça a changé, ça a muté, et qu'on ne peut plus passer à côté... non pas de ce que nous, on regarde, nous, en tant qu'intervenants, moi je n'ai pas la télévision, mais sans doute que 95% du public qu'on travaille avec la rétine ont la télévision, et on ne peut pas passer à côté de ça. Ouais. Et du coup, là, ça change beaucoup de choses, et là, on sort de sa zone de confort.
Moi, je trouve. Mais l'éducation au cinéma, moi je trouve, elle reste complètement légitime.
Bien sûr.
Si tu veux, c'est le glissement qui s'est opéré, justement, c'est que depuis notamment peut-être les années 2000, là, c'est que de l'éducation, on faisait de l'éducation 2005, non mais même, je pense, ça arrivait avec Internet déjà, et voilà, la démocratisation d'Internet, il y avait la télévision, mais la télévision finalement c'était des émissions, des téléfilms ou des films repris du cinéma, quoi. Donc, et finalement, ces images, les nouvelles manières de faire les images, forcément ça vient questionner, et il y a tout un champ maintenant qui est ouvert. Mais qui enlève rien à la légitimité d'aller s'interroger sur le cinéma aussi. La littérature reste quelque chose d'intéressant à étudier. Le cinéma reste intéressant à étudier en tant que tel.
Absolument.
Mais ce champ de toutes les autres images, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'aborde, et surtout, faut l'avoir en ce que tu dis là. Il faut l'avoir en tête, même si tu fais de l'éducation au cinéma, finalement, tu ne peux pas te couper du reste des images. Quoi.
C'est là où il y a une transversalité qui s'opère en fait. Moi, je fais tendance à faire le distinguo entre, je vais dire, les images culturelles, celles qui sont liées à un art, etc., et les images dites du quotidien, de société. Bon, voilà, sur l'un, on est partenaire avec une salle de cinéma, sur l'autre, c'est plutôt les centres sociaux, par exemple. Mmh. Et là, il y a des implications différentes. Moi, je suis quelqu'un qui est sur le langage. Mmh. Un travail comme celui de Serge Tisseron, par exemple, qui n'est pas du tout quelqu'un qui vient du milieu des images, ne peut que m'interpeller dans la transversalité. Voilà.
Alors, du coup, ça m'évoque deux choses. D'une part, si vous voulez, parce que je travaille pas mal avec Serge Tisseron, et demain soir, c'est vendredi demain, à 22h15 à France Culture, on a fait une émission ensemble qui passe à 22h15 demain.
Mais qu'on peut avoir en replay, en podcast.
Absolument.
Un gros angoisse.
Et je vais
parce qu'elle dort déjà à 22h.
J'enverrai, parce que peut-être certains d'entre vous reçoivent ma newsletter. J'enverrai une newsletter le lendemain avec le lien pour le podcast. Voilà.
Ouais.
Voilà, parce qu'en effet, c'est pratique. Du coup, bon, je pensais, non, ça m'avait fait penser à autre chose. Oui, si. Du coup, pendant que tu parlais, il y a la question de la documentation des actions aussi. Je trouve que, moi le premier, je trouve qu'on documente pas suffisamment les actions. Et j'ai commencé à faire une chose sur quelques ateliers, c'est-à-dire que parmi le groupe de jeunes, de demander à certains d'entre eux, genre deux d'entre eux, d'être entre guillemets les journalistes, c'est-à-dire qu'ils font des photos, qui racontent ce qui se passe, etc. Et par exemple, dans le cadre d'une action que j'ai faite à Martigues l'année dernière, bah, c'était un atelier, il y a des jeunes qui ont fait les photos, du coup il y avait des belles photos parce que c'était un atelier, on a fait aussi des projections itinérantes, donc il y avait des très jolies photos. Du coup ensuite ils ont fait des tirages, il y a 11 centres sociaux dans cette ville, ils ont fait des grands tirages, c'était avec un centre social, qu'ils ont collé sur tous les centres sociaux, donc on avait en photo dans la ville la mémoire de l'atelier qui avait eu lieu, et il y a une petite cinémathèque dans cette ville, et il y a eu une expo photo de ces photos dans la cinémathèque quasiment un an après ou 8 mois après l'action. Et du coup c'est vrai que je trouve que le fait de documenter, de garder des traces, ça permet de raconter aussi l'histoire, et c'est aussi une façon pour des jeunes d'avoir ce point de vue justement sur la réalité, etc., de le travailler. Et c'est vrai que la photo, c'est quand même un outil simple et pratique. Donc moi, j'essaie ça, et du coup, par rapport justement à ce projet de recherche-action qu'on a, j'ai envie qu'on travaille sur nos pratiques, c'est-à-dire être un peu dans l'analyse de nos propres pratiques.
Il y a peu de textes qui parlent d'éducation à l'image, proprement dit.
Voilà. Mais ça, du coup, moi, j'essaie de l'expérimenter moi-même. J'essaie de m'astreindre à la fin de chaque... Mais ça fait juste quelques mois que je le fais. À la fin de chaque journée d'atelier, c'est comme un journal. Ouais. Et après, prendre le temps de raconter, de parler, d'analyser. C'est hyper... Enfin, c'est pas évident à faire. J'ai envie de l'intégrer même dans la journée de travail. De dire, bah, il y a 20 minutes... c'est pas en plus, ça fait chier, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai pas ça à faire, que ce soit intégré le fait de documenter ça, parce qu'on se rend compte, pour parler avec différents coordinateurs, notamment passeurs d'images, qu'il y a plein d'actions, mais quelles traces et comment ça s'est passé, quel type de pédagogie j'ai employé, etc. C'est vachement important, parce que c'est aussi comme ça qu'on va se nourrir les uns les autres et apprendre et s'enrichir les uns les autres, mais en fait c'est un boulot en soi aussi. Et je me dis, ce serait intéressant de l'intégrer un peu plus, quoi.
On sait que souvent, dans ce genre de projet, c'est l'expérience vécue qui est presque plus importante que le résultat.
Oui.
Si on ne communique pas sur l'expérience vécue, et ben, du coup, il en va de la pérennité de ce type d'action aussi.
Absolument.
Il y avait une table ronde à Clermont, quand même, je me souviens. Et justement, moi, ça fait 8 ans que je coordonne le passeur d'image, c'était la première fois vraiment... où il y avait des intervenants, des réals intervenants, et on parlait vraiment de quelle approche, quelle est ma place, la distance, comment je m'implique, etc. Et vraiment, on avait passé 3 heures là-dessus.
Ah ouais, super.
Et finalement, je m'étais dit, c'est quelque chose, pourtant, c'est au cœur du travail sur passeur d'image, et on prend peut-être pas assez de temps de s'interroger là-dessus. Je suis d'accord.
Et moi, j'irais pas plus loin, mais de manière différente, sur la médiation en général, parce que moi, je suis plus de médiation transversale, interdisciplinaire. Il y a eu un colloque peut-être une dizaine d'années sur l'éloge de l'échec en termes de médiation, c'est-à-dire aussi comment on peut prendre par rapport à une analyse, bien sûr, avoir pris le temps d'analyser, mais c'est-à-dire de prendre aussi le temps collectivement, partir de l'échec d'expérience, pour pouvoir rebondir et se questionner plutôt que d'être sur une...
Inventer autre chose.
Voilà, et que c'est à partir de ça qu'on réinvente, c'est pas en disant que c'est formidable, et encore une fois, on sort de sa zone de confort, même devant les gens qui nous subventionnent, et que ça fait partie aussi d'une réflexion globale, et que du coup, voilà, ça peut être aussi, voilà, enfin, moi j'aimais bien le titre, l'éloge de l'échec, pour dire qu'on peut aussi, donc ça sortait juste de l'image, mais de manière plus générale sur nos pratiques en termes d'éducation ou de médiation. Voilà.
Ça peut être fait sur les ateliers aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des ateliers où on se prend des gadins, quoi.
Bien sûr.
Ça se passe pas à chaque fois, comme sur un lit de rose.
Voilà.
Des fois, il y en a, c'est fou, il se passe des trucs dingues, et puis d'autres fois...
Bien sûr.
Et on sent vraiment savoir pourquoi, ni comment... c'est une alchimie, quoi. C'est une rencontre de plein de gens différents, et...
La sauce prend, ouais, ça prend pas. Là.
Ça prend pas. Quoi.
Mais c'est vrai que par rapport à ça, je trouve que le fait de faire un journal, c'est simple, hein, le journal, du coup, on a son journal... Et nous-mêmes, on n'a pas forcément la distance de comprendre. Mais après, il peut y avoir des retours. Moi, il y a quelque chose que j'essaie de faire. Je ne le fais pas suffisamment. Et j'essaie de relater. Peut-être certains sont déjà allés sur mon site et tout. J'essaie de relater des actions. Et justement, ce que j'ai fait là récemment dans le... Ce truc avec drone dont je vous parlais, voilà, j'ai raconté, j'ai écrit un article, ça prend du temps. Hein. Voilà, ça c'est le plan dont je vous parlais avec voilà, que j'ai mis. Là, enfin voilà, je raconte un peu comment j'ai fait de mon point de vue, comment ça s'est passé, etc. Et après, j'ai mis le film, bien sûr, on peut voir le film, et j'ai mis mon journal, quoi. Mes notes, mes persos, quoi. Et parce que je me dis, ok, j'ai aucune distance, mais voilà, les choses que j'ai notées chaque jour, voilà, vite fait. Et je me dis, bah voilà, je mets en partage. Et d'une part, c'est une question de partage, je veux dire, de fond, pour travailler ensemble. Mais d'autre part, et je le sais, parce que moi, je le fais pas systématiquement sur les ateliers, parce que ça prend du temps. En gros, ça prend... au bas mot une journée, quoi, de faire ça. Mais n'empêche que ça valorise vachement les ateliers et qu'à chaque fois que je le fais, ben je sais que c'est repris et puis au bilan, c'est bien, etc. Et que si on le faisait, mais encore une fois, j'en sais moi-même la difficulté parce que je pense que j'en relate 1 sur 10 des ateliers que je fais et je le déplore moi-même, mais si on le faisait plus systématiquement, on valoriserait aussi plus nos actions. Et du coup, ça les ancrerait aussi plus, parce qu'on raconte l'histoire aussi comme ça. Et c'est vrai que ce qu'on raconte pas, à un moment donné, ça passe et voilà.
Mais je pense que du coup, ça rejoint ce qu'on voulait dire aussi dans la journée. C'est-à-dire que, et ce qu'on va peut-être expérimenter, c'est-à-dire comment tu peux prototyper, entre guillemets, une action d'éducation, de médiation.
Ouais.
C'est-à-dire que même au niveau de la conception, tout ça, tu l'es déjà en tête, et que du coup, ton schéma intellectuel, même si c'est qu'un schéma au début, mais justement que c'est aussi intéressant et que c'est même essentiel à avoir, et que ça peut même être transmissible, et que c'est pas juste un truc comme ça qui est pas important, quoi. Enfin, voilà, que toutes ces actions qui sont, moi j'aime bien dire le avant pendant après, c'est, en fait c'est tout ce parcours là qui fait que on arrive à analyser le pourquoi du comment, comme on disait, quoi. Donc du coup il y a cette envie là aujourd'hui justement de réfléchir à une logique de prototypage, de, je sais plus si c'est pas le mot prototypage, mais
c'est bien,
mise en schéma,
c'est bien aussi,
comme un ingénieur finalement,
une stratégie
ouais, ou l'ingénierie, je préfère,
on est en différents,
voilà,
on va rebondir parce que justement là un petit peu anticipé,
et du coup tu peux revenir sur ton processus comme un chimiste, enfin parce que tu sais, et alors sans se dire on va retrouver le jour où il a plu et que je sais pas quoi, c'est pas ça, c'est que du coup ça intègre aussi professionnellement que notre travail c'est aussi un travail en amont de réflexion, et que même si dans ce cadrage là on sait bien qu'on sera sûr une spontanéité, et du coup, pour le coup, on pourra improviser, expérimenter, mais du coup, le cadrage, il est aussi important, finalement, pour tout ça.
Ouais, comme on voit une carte, c'est marqué carte mentale, mais comme une,
c'est ça,
une sorte de, une carte, mais qui n'est pas avec des gros, pas avec des gros traits. Quoi.
Ouais, ouais.
Voilà, une cartographie.
Et du coup, c'est... Du coup, les objectifs... que tu nous donnes là pour les petits groupes, donc il faut qu'on fasse les petits groupes, du coup c'est ces objectifs là, c'est-à-dire que dans chaque groupe, peut-être on va faire un petit point avant de partir, L'idée, juste pour le formuler, hein, c'est que dans chaque groupe, on imagine une action ou une logique d'action et qu'on en propose des éléments chacun à sa manière, quoi.
Il y a... ben, on a déjà dit, hein, il y a un groupe qui va réfléchir plutôt sur le lieu, la salle, l'exploitation cinéma, un groupe qui va plutôt réfléchir sur les images et leur place dans cette salle de cinéma, mais et un groupe plutôt sur les publics et la place de ces publics, encore une fois. En utilisant, donc on va essayer, on va se, là aussi, nous, on se met en, comme tu disais, on sort de notre zone de confort, en utilisant des outils qu'on maîtrise un petit peu, type ça, des mind map, etc.
Alors,
pour ce qui est de mon groupe, par exemple, mais d'autres alors, vont être sur
le lieu. Le lieu, c'est toi, hein, c'est.
Ouais.
Voilà. Les images, c'est moi. Et les publics, c'est toi, Isabelle.
Voilà. Avec le groupe.
Voilà. Et alors, du coup, on va. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est. Du coup, toi, tu utiliseras quoi comme outil, a priori, à mon avis ?
Alors, mind map ou Prezi. Mais c'est, on est sur des logiques comme ça de schéma, quoi. Qui pourrait être.
D'accord.
Si tout le monde adhère, voilà.
Alors, ok. Moi, ça va être les images. Hein, c'est ça ce qu'on avait dit. Hein.
Les images par les images pour les images. Ouais.
Voilà. Ok, d'accord, ok. Ok. Et toi, Isabelle ?
Alors, ça va être autour de la logique d'application. Et du coup, il y a deux applis qui servent à faire des applications. Il y en a un qui s'appelle Pop. Non, mais justement, ça aide à prototyper.
Pop.
Aussi. Pop, mais si on y arrive. Et l'autre, c'est Good Barber. Mais
Good Barber, ouais, comme ça.
Mais sachant qu'il y en a d'autres et que pareil, c'est des choses.
Alors, donc. Donc, et alors, donc, du coup, est-ce qu'on peut prendre les. Je note au moins les.
Oh, tu vois, moi, je le fais toujours à l'ancien.
Ah.
J'ai un côté numérique.
Mais comme ça, moi, je vais noter. Ouais, ce que je vous propose, comme ça, ça nous, je vais noter le prénom et le nom de la personne et la structure dans laquelle vous travaillez. Et comme ça, on aura aussi un document. On gardera ce document, quoi. Ok.
Alors, on est sale, hein, d'accord.
Oui.
C'est pas du tout ça. Non, c'est le public. Voilà. Donc, Mélanie Dauvernay.
Mélanie Dauvernay, ça s'écrit comment ?
D-A-U-V-E-R-N-E accent aigu.
Et donc, Mélanie, tu.
Moi, je suis sur Eugène et Albertville.
Eugène et Albertville ?
Ouais.
Et tu travailles où ?
Cinéma, 5 écrans.
Wow.
3 cinémas et tu fais quoi ?
Tout.
Ouais, beaucoup de choses. Non, je suis assistante de direction donc à la programmation, mais ce qui va être plutôt des programmations jeunes publics ou en tout cas à la saison, voilà, scolaire, etc. Tout le suivi des dispositifs, école, cinéma. Et puis après, l'action culturelle et la communication. En bref.
Ok.
Damien Lefroux.
Comment ça s'écrit ton...
L-E-F-R-U.
Toi, tu es...
Non, moi, je travaille à la Maison d'Image, à Grenoble. Et
ouais.
Et je m'occupe à la fois, par exemple, des réseaux sociaux. Enfin, on fait de la formation à la Maison d'Image. Et... on fait beaucoup d'éducation à l'image. Et donc, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la vidéo et le rapport à l'image des jeunes. Voilà.
Ok.
Alors, Camille Chimier.
C'est écrit comment ?
C-H-I-G-N-I-E-R. G-N-I-E-R.
G-N.
Attends, CHIG. Ouais. Ah, voilà. Pardon.
Donc, je suis coordinatrice du pôle d'éducation aux images pour Grenoble. Attachée au luxe.
C'est tout ?
Tu veux que je détaille ?
C'est pas, c'est comme tu veux.
C'est très long.
C'est comme ça se prononce, ouais. C-H-O-M-E-T-O-N. Donc c'est le cinéma art et plaisir, un art pour plusieurs plaisirs.
Ok.
Ça a son importance. Et
qui est où qui est...
C'est à Voreb. V-O-R-E-2-P.
Oh. AVO, pardon.
Donc je m'occupe de la programmation, de tout en fait. Voilà, de tout, j'imagine.
Et tout.
Et avec un S, c'est tout.
Et de tous.
Et voilà. Et tout, tous. Toutes.
Ça, c'est
ouais.
Les problèmes, par contre.
Ah, dont j'enlève, d'accord, pardon.
Je gère les plaisirs et les déplaisirs des fois.
D'accord, ok.
Et ben voilà, on change de groupe. Hein.
Ok.
Donc les images.
Ok.
Donc avec Noémie, Rosa Tumérac.
Comment ça s'écrit?
Je dois la dire.
Vous mettez Ruba, c'est mieux. R-U-B-A-T.
Ok.
Donc maison d'image à Grenoble. Moi, je suis en charge de projet d'éducation aux médias.
Ok.
Benjamin Coquenet.
Ça s'écrit comment,
C-O-C-Q-U-E-N-E-T. Là, donc, je travaille pour les ateliers de la rétine.
C'est à Grenoble.
Particulièrement, je fais l'accompagnement des films en salle et je travaille autour d'une pratique qui s'appelle le mash-up et le recyclage.
Ok.
Jean Duchesne, pardon.
Duchesne.
D-U-C-H-E, accent circonflexe, oui. C'est 6 étoiles plus.
Avec un S.
Avec un S, c'est une étoile. Cluse, C-L-U-S-E-S.
Ouais. Ouais.
Et je fais de l'éducation à l'image.
Ok.
Alexandre Thévenot.
Thévenot.
Oui. Ça N-O-T. Très bien. Alors, je suis administrateur aux ateliers de la rétine. M'interroge de façon globale sur les moyens et les méthodes pour parler du cinéma et des images en général.
Ok.
On change de groupe.
Ça marche. Alors attends, je vais juste mettre nos noms de famille parce qu'on est les seuls à. Hop, pardon. Hein. C'est, Isabelle, ça s'écrit comment ton nom de famille?
P-E-R-E-Z.
P-E-R-E-Z, comme d'accord. Ok, c'est un Z. Ok.
Donc, Elodie Pelou.
Comme ça?
Deux Z.
Ah, pardon.
Film errant. Tout attaché. Tout attaché. Deux R à N T. À Saint-Étienne-de-Boulogne, en Ardèche.
Pourquoi c'est bien?
Donc, moi je suis réalisatrice et j'anime des ateliers d'éducation à l'image en vidéo et cinéma d'animation.
Ok.
Sophie
Obi, ça s'écrit comment? O-B-I-T
D.
Comme ça?
Oui, c'est ça. Donc, les études de la rétine. Je suis intervenante pour l'atelier structure jeunesse ou très bien. Je travaille avec l'étage en sur le développement de la pratique de mash-up.
D'accord. Attends. Donc, atelier. Pour les jeunes, pardon, hein, excuse-moi, mashup. Ok.
Marc, Ferrieux.
Ferrieux.
E2R IEUX. Je suis directeur général de Marc Ferrieux Incorporation.
D'accord.
Donc je m'occupe de mon habillement le matin, de nourrir. Je suis en recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je cherche quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je cherche.
Ok, je voilà, je. Tu toi, ça marche, non, mais c'est bien.
Et Bérangère.
Bérangère, comment?
S-E-C-O. Assine étoile, Cluse. Et on dit que je suis coordinatrice.
Oui.
Je coordonne tout.
De tout.
Voilà.
Ok. D'accord. Tout le monde est là.
En fait, je vais faire un revue par rapport à la programmation. Est-ce qu'on peut juste être montreur de film, ça me convient mieux.
D'accord. Alors, attends, tu es ici.
Voilà.
Alors, donc en fait, c'est d'accord, d'accord.
Montreur de film.
Montreur de film. De film.
Pour tous et tout.
Voilà.
Pour tous. Voilà, pour tous. Et tout. Ok.
Très bien.
C'était. Ok, bon ben.
On était des montreurs de films exploitants.
Ah ben c'est mieux qu'exploitant.
C'était mignon.
Ah ouais, c'est plus joli en effet. Ouais, exploitant, c'est vrai que c'est un peu.
Il y a un côté exploitation.
Ouais. Alors du coup, expliquez-nous comment on sort. Donc là, on va manger.
Voilà.
Mais déjeuner, on fera un petit retour peut-être en salle.
On se retrouve ici, voilà. D'accord.
Voilà.
Avec une petite digestion.
D'accord.
Récréative, comme nous avons l'habitude de le faire sur les cinélabs.
Et ensuite, on repart chacun de notre côté.
Donc, ce sera un peu plus speed que ce qui était prévu, mais ce sera intense. Du coup, donc,
okay.
Réfléchir à ces problématiques des lieux, des images, des publics et arriver à produire quelque chose avant 16h pour qu'on puisse en discuter ensuite. Donc, ce sera du coup un sprint.
Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est pop et je ne sais pas ce que c'est machin.
Bah, l'idée, c'est de découvrir. Hein. C'est parfait.
Je stresse. C'est bien.
Tu
es en bonne condition.
T'arrives d'une formation.
Ce qui s'appelle pop, c'est cool.
Ouais, tranquille.
Ouais, j'ai super confiance en moi, t'as remarqué.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, il y a deux gens qui
Et ben voilà.